Eh bien, alors j'ai le plaisir, au nom du laboratoire Sophia Paul et de l'Université Paris-Ouest, de recevoir, au cœur de cette université, Étienne Balibar, deux anciens professeurs de cette université, Étienne Balibar et Jacques Bidet, autour de l'ouvrage de ce dernier, L'État-monde, libéralisme, socialisme et communisme à l'échelle globale, que l'on peut présenter en quelques mots comme une tentative d'articuler une théorie du temps présent à une théorie englobante de la modernité et de ses contradictions. Donc, on avait prévu que Étienne Balibar prenne la parole et qu'ensuite Jacques lui réponde.
On a une petite discussion aussi.
Voilà.
Tu souhaites que je vous parle combien de temps à peu près?
On peut dire. Combien
enfin, Non, vas-y.
Bah, si tu as un exposé d'une demi-heure, ça peut lancer la discussion, me semble-t-il. Je t'arrêterai à peu près.
D'accord, arrête-moi. D'accord. Bien, alors, ne perdons pas de temps. Je voudrais dire que j'admire beaucoup ce livre de Jacques. Je pense que c'est l'achèvement d'une longue... entreprise de construction de concepts et d'élaboration d'arguments qui se trouve être en même temps, comme vient de le rappeler Stéphane, articulé à l'actualité la plus urgente et qui, dans ces conditions, mérite incontestablement notre attention et pourrait être considéré comme un livre de Jacques. Pour ma part, j'y ai pris un très grand intérêt. Les questions qu'il aborde sont celles, d'une certaine façon, que nous posons tous, dans le cadre de ce qu'on peut appeler généralement une théorie critique ou une critique théorique, mais évidemment chacun le fait en accentuant l'importance à ses yeux d'aspects qui ne sont pas toujours les mêmes, et en utilisant une méthodologie qui, elle aussi, bien entendu, varie, ce qui fait tout l'intérêt de la confrontation. Bon, alors, il semble très difficile, surtout en une demi-heure, de rendre compte de la richesse de ce livre, qui vaut à la fois par sa construction d'ensemble et par une multiplicité d'analyses particulières, dont je dirais simplement en espérant qu'on nous permette, que c'est moi le présentateur ici, de prendre ce ton un peu paternalistes, qu'elles sont à la fois d'une très grande rigueur conceptuelle et d'une ravissante subtilité. Alors, on pourrait en énumérer un certain nombre, j'y viendrai au fur et à mesure, celle de la constitution de la modernité sociopolitique dans le cadre des italiennes frappe évidemment à la fois par sa maîtrise et par son originalité, comme les joueurs en rôle central de leur argumentation, c'est particulièrement bien vu, mais il y en a d'autres. J'ai décidé d'essayer de procéder d'une façon régressive, en suivant d'ailleurs certaines indications de l'auteur, qui envoie à sa profonde culture dialectique, en partant de la fin pour remonter à l'identification de ses présupposés de proche en proche, avant d'essayer de formuler, on verra bien, le temps disposera pour ça, quelques questions critiques. La fin, c'est la présentation d'une alternative communiste à la forme tendancielle, revêtue aujourd'hui par la domination globale. Et plus précisément, je dirais, c'est celle d'une différentielle politique au sein de ce que, très important qu'elle soit politique, j'espère qu'on reviendra dans la discussion sur la différence évidemment entre le politique et le métapolitique, question qui se pose évidemment dès que les questions du communisme, au sein de ce que Jacques Bidet décrit comme le terme de l'évolution multiséculaire de la modernité, pour laquelle, dans l'une des inventions terminologiques dont ce livre n'est pas avare, il parle, en particulier aux pages 72 et suivantes, de l'ultimodernité. Elle présuppose, me semble-t-il, de proche en proche, comme je disais, la définition de la réalité actuelle à l'échelle globale comme émergence tendancielle d'un État-monde avec les structures, les institutions, les appareils de domination, ainsi que les idéologies ou les contre-idéologies correspondantes. Et à son tour, cette définition présuppose deux développements dialectiques étroitement interdépendants, celui de l'histoire sociale comme mondialisation progressive de l'État, entre par conséquent un point de départ ou un commencement, un terminus aquo, et un point d'aboutissement, un terminus ad quem, qui est l'État-monde. Deuxièmement, celui de la rationalité, ou de la rationalité moderne, comme double détermination du rapport socio-politique par une conflictualité interne, et pensée en termes d'élargissement du rapport de classe, ou de rapport de classe généralisé, ce qui veut dire aussi hétérogénéisé, si je peux me permettre cette formule un peu barbare, c'est de la barbarie, il s'agit de barbarie. Et d'autre part, déterminé, surdéterminé par une externalité, ou si vous préférez, une territorialité géopolitique, encore dite systémique, dans une proximité critique par rapport à un certain nombre de travaux contemporains, notamment ceux de Wallerstein, d'Arrigny et de leur école, dont la forme institutionnelle est la concurrence des États-nations bourgeois pour le partage du monde. Au point de recoupement de ces deux dialectiques, temporelle d'un côté, conceptuelle de l'autre, se présente une thèse théorique qui redouble et sous-tend celle de l'émergence d'un État-monde, à savoir l'idée que le terme de l'histoire pour ce dont nous pouvons juger, bien sûr, est représenté par le retournement du rapport entre structure étatique et système-monde, faisant du second, c'est-à-dire du système-monde, une détermination interne du premier, tendanciellement, bien sûr, la structure étatique, et non pas simplement sa condition de possibilité externe, ou son champ d'action politique, militaire, diplomatique, etc. À leur tour, enfin, les implications théoriques et politiques de cette idée, dont une contribution forte et originale, j'y reviendrai, à la critique de la notion de socialisme comme antithèse fictive au libéralisme, dont la tradition marxiste, selon Jacques, je suis d'accord avec lui, n'a jamais réussi à se dégager complètement. Donc, à leur tour, ces implications prennent toute leur signification sur la base d'un présupposé méthodologique de longue date. Jacques Bidet appelle le point de vue métastructurel, et qui lui permet à la fois de fusionner les dimensions économiques et politiques de la domination et de relativiser l'opposition entre les principes sociologiques, ou institutionnels, du marché et de l'organisation dans une bipolarité, on va y revenir, qui est aussi, selon lui, une bifacialité, c'est-à-dire une réalité à double face. Essayons, avant d'en venir à quelques questions critiques, de présenter les grandes lignes de cette fondation régressive ou logique des présupposés, d'une façon évidemment simplificatrice. Le différentiel communiste, me semble-t-il, tel que le... Stéphane Aber, Frédéric Monferrand. Merci beaucoup, Étienne. Bon, alors, donc le différentiel communiste est présenté de façon très intéressante, évidemment, dans le sens de l'ouvrage, comme étant à la fois ou représentant une convergence, ce qu'on pourrait appeler la dynamique ou l'alternative antisystémique et, disons, alors je préfère pas dire anti-structurel, on verra ce que Jacques préfère dans la discussion, mais il me semble qu'il serait plus éclairant de dire contre-structurel. Bon, ce qui veut dire, mais enfin bon, anti est quand même presque inévitable, ce qui veut dire qu'il y a ici à la fois une dimension de remise en cause du système monde, qui prend en particulier la forme de l'anti-racisme, et une dimension de remise en cause de la structure à la fois étatique et capitaliste qui évidemment, est plus traditionnel du point de vue de l'histoire du mouvement émancipateur qui se réclame du communisme. En fait, ce que Bidet dit, et je prends là la fin de la fin, en quelque sorte, qui me semble très important, c'est que, je le cite, le caractère propre du communisme est le mondial. Et la raison pour laquelle donc nous avons affaire à un différentiel ou une alternative interne, c'est que le sens de la transformation historique en cours aura pu être identifié comme émergence d'une communauté universelle, ou encore d'une communauté politique à l'échelle globale, au sein de laquelle il s'agit évidemment de marquer la présence de cette alternative. Donc, le caractère essentiellement ouvert ou non déterministe de l'évolution. Dans les deux cas, évidemment, qu'il s'agit d'antiracisme ou d'anti-capitalisme, il faut admettre que la perspective est résolument post-nationale, mais elle l'est non pas du tout, comme chez d'autres théoriciens contemporains, dans le régime du nécessaire, plutôt, me semble-t-il, dans celui du possible. Et ceci est étroitement lié à la double critique de Marx, qui s'effectue toujours à partir de Marx lui-même, et qui entreprend non pas de le liquider, mais au contraire de dégager, comme déjà le fait de très longue date, de son héritage les instruments d'une généralisation, d'une refondation, dans une assez grande proximité, revendiquée plusieurs fois au cours du livre, avec Antonio Negri et son école, et dans un grand éloignement par rapport à ce qu'on pourrait appeler les post-léninistes actuels. Alors ici, Jacques ne donne pas de nom, enfin, je ne mets pas Badiou dans cette catégorie, c'est un problème de différent, on pourrait penser à exiger. Bon. Qui a évidemment à voir avec le choix d'un sujet de transformation ou d'action émancipatrice qui est plutôt pensé en termes de multitude. Page 299, la multitude est par définition le grand nombre, même si Jacques, et on va y revenir si on a le temps, tient à faire un pas de côté par rapport à Negri pour structurer ou diversifier davantage cette catégorie, et non pas, évidemment, ou jamais en termes de minorité agissante, ce qui évidemment implique à soi tout seul toute une orientation politique, on peut bien dire démocratique. Ce que je voudrais enfin rappeler très vite, c'est que la double critique de Marx implique d'une part de rétablir, mais on va y revenir, la symétrie d'une critique de l'État, en voyant à ce que, dans sa terminologie, Jacques Bidet appelle le pôle de l'organisation, et d'une critique du marché, évidemment liée, mais on y reviendra aussi, à celle du capitalisme, et d'autre part de passer de l'idée du progrès nécessaire à celle de la bifurcation possible, ce qui pourrait se résumer dans la substitution d'une belle formule, sur laquelle je reviendrai, parce qu'elle pose aussi des problèmes à mes yeux, page 297, l'autocritique immanente de la société moderne, venant ici prendre la place en quelque sorte de ce que Marx avait appelé le mouvement réel qui abolit des tas de choses existantes. Bon, alors, voilà. Bon. Donc, remontant de proche en proche, l'idée d'État-monde. Bon. L'idée d'État-monde permet ici de penser le terme de la modernité économico-politique et culturelle, comme je le disais tout à l'heure, l'ulti-modernité. Il faut insister, et Jacques le fait de façon répétée, chaque fois que nécessaire, sur le fait qu'il s'agit ici d'une tendance, d'un état tendanciel. Évidemment, quand on en viendra à la discussion politique qui s'impose, sur la consistance logique de cette idée, amènera à se poser la question de savoir s'il distingue un état tendanciel d'un quasi-état, voire même d'un pseudo-état. tendance de nature d'abord structurelle et non pas systémique, c'est-à-dire représentant essentiellement une nouvelle phase de la structure de classe, de la structure de domination liée à la concurrence et à la complémentarité entre les deux forces sociales dominantes, d'un côté les capitalistes et de l'autre les dirigeants, comme dit encore Jacques souvent, je ne sais pas s'il forge cette idée, mais elle est très parlante, les dirigeants compétents. Donc, quand on connaît un petit peu l'histoire des idées politiques, on pense que c'est une refonte, à certains égards, de la grande distinction qui figurait au cœur des théoriciens du libéralisme organique au début du XIXe siècle. C'est ce que Guizot pensait en termes de... Enfin, c'est une transformation. Guizot pensait en termes d'alliance de la propriété et de la capacité, et dont on pourrait trouver aussi, évidemment, l'équivalent, mais on verra peut-être dans la discussion, chez le plus grand des théoriciens du libéralisme organique, c'est-à-dire Hegel lui-même. Bon. Donc, lié à la concurrence entre ces deux forces sociales dominantes, les capitalistes et les dirigeants compétents, eux-mêmes référables aux deux grandes médiations institutionnelles que sont le marché et l'organisation. Je voudrais ici, avant d'en dire un petit peu plus, marquer mon accord, qui me semble particulièrement juste, sur trois points. D'abord, la remarque critique de la page 241 contre Marx, au sens que je disais tout à l'heure, où Jabinet souligne que l'impasse de Marx sur l'État, sur la question de l'État-nation politique, problème toujours remis par lui à plus tard, a produit un effet d'abstraction ou de formalisme qu'il appelle l'abstraction géographique dans la conceptualisation de Marx, qu'il a dispensé de poser en fait la question du terme, c'est-à-dire qu'on va le voir, la question du planétaire ou de l'émergence de la dimension planétaire. Déficit flagrant, évidemment, lorsque l'histoire globale dont nous sommes les contemporains place au premier plan les questions de l'environnement. Je voudrais marquer aussi mon accord avec ce qui me semble être la juste critique du mythe libéral d'un affaiblissement de l'État, nous sommes nombreux à partager évidemment ce point de vue, d'un affaiblissement de l'État et a fortiori d'un affaiblissement de l'État dans l'émergence du néo-libéralisme, qui commence avec cette remarque de la page 245, la loi du marché n'a rien de naturel, l'État libéral est par conséquent toujours un État fort. Et enfin, la justesse, à mes yeux, de la critique symétrique de la perspective schmittienne, qui est référée, qui a en contrepartie un certain usage positif, enfin disons, on peut faire un usage critique de Schmitt, bon, mais Jacques souligne que pour Schmitt, l'idée d'un État monde est une contradiction dans les termes. Or, ceci non seulement n'empêche pas du tout l'État monde d'exister comme tel tendanciellement, mais justement, c'est ce qui nous permet de comprendre la contradiction réelle dont il est l'élaboration, dont il se constitue, donc il peut être beaucoup plus dialectique que Schmitt, ici, plus hegelien en fait, plus marxien, dont le contenu, on y reviendra peut-être, est ce que, page 252, Jacques Millet appelle l'assujettissement des peuples populaires. Alors ça, c'est les peuples populaires, une expression évidemment névralgique, bon, dont il faudra essayer de reparler. Bon. Évidemment, le grand problème, c'est de savoir s'il n'y a pas ici, dans cette thèse de l'émergence même tendancielle, évidemment, quelque chose comme un cercle. Un cercle, ce n'est pas nécessairement une infamie, mais je veux dire, c'est un problème logique et méthodologique. C'est-à-dire que, bien sûr, tout dépend de la façon dont on définit l'État, et à son tour, il est probable que la façon dont on définit l'État dépend de la façon dont on localise ou territorialise les institutions qui le caractérisent. Donc, en venir au contenu que Jamidet propose pour cette... je peux mettre ça là, mais... Pour cette thèse. Bon. Une définition synthétique est proposée, page 253-254, mais évidemment, elle est très, très générale. Ce qui est important, c'est qu'elle comporte intrinsèquement une référence au problème de l'aliénation. Il s'agit de la communauté politique à l'échelle ultime de la planète, ou encore de l'humanité commençant sous cette forme aliénée à exister comme communauté politique. Donc à la fois l'émergence d'une communauté politique à une dimension nouvelle, sans précédent, et d'autre part immédiatement forme aliénée. C'est aussi une très longue tradition. Je ne cherche pas à étiqueter Jacques naturellement. Bon, il s'agit de son usage de la tradition de la philosophie politique. C'est évidemment pas anti-marxiste, c'est pas non plus anti-hegelien, mais c'est peut-être plus profondément que tout, en fait, rousseauiste. Bon. Le point important, bien sûr, c'est de poser qu'il s'agit là d'une lignée qui procède de l'État-nation. Enfin, 253, bon, procède, encore un terme qui appelle la discussion, évidemment, impliquant une genèse ou un développement, mais aussi une différenciation. qui consiste essentiellement dans la construction de nouveaux appareils d'État, à la fois publics et supranationaux. Bon, alors, Jacques commence par une énumération, qui est en même temps aussi, bien sûr, une prise de position dans les discussions très nombreuses et très, très importantes politiquement aujourd'hui, qui porte sur ce point, c'est-à-dire sur le statut exact de ces organisations supranationales que sont l'Organisation des Nations Unies, le type de légitimité que comporte son autorité. Je crois qu'il est très important, là encore, toujours sous réserve qu'il s'agit d'un mouvement qui est d'une tendance qui doit comporter des contre-tendances, mais d'insister sur l'idée que l'Organisation des Nations Unies fonctionne effectivement comme le centre d'une constellation d'institutions, ce qui fait qu'elle n'est pas une organisation parmi d'autres. Tout ça, ce sont des citations de Jacques. Ou encore que ces instances, je cite, ont un caractère non pas transnational, mais bel et bien supranational, c'est-à-dire étatique mondiale. Et il en va de même pour les institutions subordonnées, mais qui ajoutent une dimension capitale, puisque c'est celle de l'économie et de la finance, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce. D'où cette idée que plus que jamais, le pouvoir économique privé a pour condition un pouvoir politique et capitaliste. Ceci appelle évidemment des objections auxquelles Jacques Guidet va entreprendre de répondre et qui le conduiront à concrétiser cette description formelle à partir de la page 268 en proposant un concept concret ou plus concret, on pourrait dire, de l'État-système monde. Bon. Il y a trois objections fondamentales et elles sont d'autant plus intéressantes que j'avoue bien volontiers que je suis tenté de les formuler moi-même, nous sommes tous tentés de les formuler. Et pourquoi il est intéressant de voir comment Jacques y répond. Bon. La première objection, c'est l'objection kelsenienne, si vous voulez, c'est-à-dire que parler d'État-monde, illustré tout de suite par ces organismes internationaux que je viens d'évoquer, c'est laisser de côté la dimension de contrainte inhérente à l'ordre juridique étatique. Kelsen écrivait l'ordre juridique est la même chose que la contrainte étatique. Mais ici, bon, donc, premier élément de réponse consiste dans le fait que on observe bel et bien. Je pense que Jacques, enfin, il dit dans la suite, ne pense non pas tellement au droit pénal, bien que ce soit intéressant et important qui est le plus visible, bon, il y a eu des affaires, on illustrait tout ça, aussi les limites de tout ça, que au champ de la législation commerciale. Bon, donc l'extension de la compétence universelle des organismes juridiques internationaux et d'un pouvoir juridictionnel mondial, bien que essentiellement, naturellement, inégal. D'où l'idée, en particulier, que est en train d'émerger un système constitutionnel ou constitutionnalisé du droit marchand qui représente, sinon l'achèvement, en tout cas l'émergence d'un, un état de droit mondial de classe. Jacques insiste sur le fait que les États qui signent les accords du OMC ou du GTT incorporent évidemment la nécessité de ce recours juridictionnel qui vont trancher les différents au niveau international dans leur propre constitution. Deuxième objection possible, celle de l'objection weberienne, c'est-à-dire celle du monopole de la violence légitime, dont il faut tout de suite remarquer que le point important est surtout négatif, c'est-à-dire réside dans le fait de pouvoir désigner comme illégitime toute violence qui n'est pas sanctionnée ou exercée par l'État lui-même. Bon. Alors, ici, c'est un sujet passionnant, la question de savoir comment se défait sous nos yeux en ce moment, dans toutes sortes de domaines, le monopole de l'exercice de la violence légitime, qui renvoie aussi à la question de savoir jusqu'à quel point il existait, hein, évidemment. Bon. Très loin d'être le cas partout, c'est même peut-être le cas seulement dans des régions très, très, très particulières que la tradition sociologique de type weberien considérait comme des modèles, mais ce n'est même pas le cas aux États-Unis. Enfin, ça, c'est bon, le contre-exemple manifeste le plus intéressant. Bon. Donc cette dissolution appelle évidemment une analyse qu'on pourrait dire phénoménologique, qui est de savoir si le résultat est une sorte de redistribution de la légitimité, ce qui pourrait être une contradiction dans les termes, ou au contraire une prolifération de l'illégitimité, ce qui est évidemment le sens de la thèse de Jacques, je crois, mais l'illégitimité doit néanmoins être désignée ou marquée comme telle. Bon. Alors ici encore, c'est une question de tendance, on n'est pas passé au terme de ce transfert, d'ailleurs, je posais la question de savoir si on n'y passera jamais, mais on assiste évidemment à un conflit permanent entre violence légitime et légitime. Troisième objection, peut-être la plus importante, du point de vue, je disais tout à l'heure, démocratique qui anime Jacques, l'idée qu'à l'échelle mondiale, il n'y a rien qui corresponde à la citoyenneté active ou agissante, caractéristique de l'État moderne. Alors, c'est là évidemment que la question de l'aliénation devient centrale. Ici, Jacques marque tout de suite que l'État moderne, mais l'État moderne, on va le voir, n'est pas le point de départ, le commencement, n'est pas par nature démocratique et sociale. Et donc, d'une certaine façon, ce qui, même si cette notion est problématique, ce qui a dominé la séquence récente, c'est l'existence d'États sans citoyens ou d'États dont la citoyenneté est diminuée. Et là encore, on peut proposer une réponse tendancielle et prise dans le champ de l'aliénation. Cette réponse présuppose, alors je n'ai pas le temps de m'engager dans des détails très intéressants, de développement sur la fonction du langage et de la langue dans la constitution de la citoyenneté. Toujours est-il que, selon Jacques, nous voyons bel et bien émerger une citoyenneté contestataire, si vous voulez, à l'échelle mondiale, une citoyenneté insurgente, comme dirait d'autres, qu'il appelle un pouvoir d'interpellation fournissant à l'échelle mondiale l'équivalent de ce qu'est la communauté de langage national et dont la densité des interactions ne cesse de s'accroître. Bon. C'est au point qu'on peut parler de l'émergence d'un nouveau sujet politique qui serait coextensif à l'humanité ou qui serait l'humanité elle-même, au fond, envisagée dans le registre de ces luttes civiques qui est capable de mettre un certain nombre des moyens de communication modernes au service de son propre développement et qui fait que, par conséquent, l'objection de la langue est levée, la langue universelle existe potentiellement. Alors, cette description formelle doit être complétée par ce que j'appelais tout à l'heure un concept concret, ou plus concret, qui a essentiellement trois composantes. Alors là, bon, ça c'est les cordes, on va en tous les détails. Ce qui est intéressant, c'est que ces composantes sont souvent dégagées, comme la perspective fondamentale de départ, d'ailleurs l'était, mais on va y revenir à partir d'une critique très, très détaillée de certains travaux marxistes ou néo-marxistes contemporains sur la naissance de l'État au début de la modernité en liaison avec la constitution de l'émergence du mode de production capitaliste. Ici, il s'agit d'abord d'une lecture critique et d'une certaine façon d'un renversement des travaux de Saskia Sassen, dont l'importance n'est croissante, n'est pas à démontrer. Saskia Sassen insiste sur l'émergence des villes mondes. Elle les oppose à l'État. Et par conséquent, elle a tendance à raisonner dans les termes d'une antithèse entre le schématisme du réseau, si vous voulez, et celui de la concentration ou de l'unité territoriale, avec peut-être une espèce d'utopie sous-jacente justement du retour aux villes, aux États, aux villes-États. Alors Jacques n'est pas du tout en désaccord avec l'idée que les villes-États sont un phénomène fondamental, on va y revenir, mais l'idée du retour à l'organisation bourgeoise des cités-États antérieure à l'État-nation lui semble démentie, et je crois qu'il a raison par le déplacement justement de cette opposition entre la forme du réseau et celle du territoire. Ce à quoi nous assistons, c'est bien plutôt une transformation de la frontière dans le sens d'un rapport de mobilité différentielle, je dirais, au territoire. Qui veut dire en pratique, de façon concrète, qu'il y a de plus en plus de migrants, mais qu'il y a plusieurs types de migrants. Tendanciellement, il y en a deux. Bon, d'un côté, il y a les VIP qui transportent en quelque sorte leur territoire, leur capacité territoriale avec eux. Et de l'autre, il y a les migrants exploités ou surexploités. Bon. Deuxièmement, donc la question du territoire fait partie, en somme, du problème et ne constitue pas un préalable géographique ou géopolitique abstrait. Bon, deuxièmement, point très important, évidemment, qui prolonge ce que je disais tout à l'heure de la légitimité et de l'illégitimité, une deuxième caractéristique concrète de l'État système monde, c'est la constitution d'une police mondiale qui, dit-il, en langage hegelien, en vient à réaliser son propre concept, qui est celui du déséquilibre absolu des forces, hein, qui le distingue de la guerre inventée. L'idée que, idéalement au moins, le policier est celui qui cogne sans être cogné ou qui tue sans être tué. D'où une double transformation des armées, une transformation des armées en forces de police, à la limite rendant possible l'émergence d'une terreur d'État-monde, et d'autre part un déclassement de la fonction nationale des forces armées, dont on peut observer les modalités, même dans des organisations militaires comme l'OTAN. Ici, Schmitt, évidemment, est un recours précieux à travers son idée de la guerre civile mondiale, résiste à la tentation. Commenter l'émergence de ce terme chez Schmitt, sauf pour renvoyer aux travaux de Céline Jouin, aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Caen, qui a fait sous la direction de Catherine Colletelaine, un travail tout à fait extraordinaire sur la généalogie de cette notion schmittienne, dont le contenu est évidemment la transformation tendancielle des ennemis en criminels. Et enfin, troisièmement, l'émergence d'une pratique politique mondialisée et mondialisante à la fois, dans la forme d'un conflit, donc plus que jamais nous sommes évidemment dans un concept de la politique comme conflit, qui implique aussi la possibilité d'une alternative, entre mondialisation libérale, néolibérale et altermondialisation, c'est-à-dire communication de plus en plus dense et de caractère transnational entre différents types de luttes, des luttes de classe, des luttes de genre, des luttes de culture. Et du même coup aussi, évidemment, l'émergence toujours tendancielle d'acteurs politiques globaux qui correspondent d'un côté aux dirigeants des grandes firmes capitalistes ou des États qui négocient entre eux, ce que Jacques appelle les potentats, et d'autre part au peuple ou au peuple populaire. Bon, alors ici évidemment se nichent toutes sortes de difficultés. Elles se concentrent autour de l'idée, je vais revenir, d'une classe fondamentale dont Bidet nous dit lui-même qu'elle est intrinsèquement problématique. La classe fondamentale s'annonce plus problématique que celle des potentats. Bon. Peut-être la raison la plus forte pour laquelle il y a là un problème qu'on ne peut pas résoudre simplement, c'est le paradoxe constitutif, au fond, du rapport entre cette classe et les formes de lutte qui la caractérisent. Je ne ferai pas référence aux élections actuelles, mais les pages 281-283 suggèrent, me semble-t-il, que la forme principale de l'émergence d'un sujet politique mondial ou planétaire est en fait toujours, alors je peux dire que c'est une forme aliénée, je pose la question, celle de lutte nationale populaire contre la mondialisation néolibérale. Et il me semble que ici, je ne sais pas si je lis bien, Jacques a surtout pensé, il a écrit ce livre, à certains des développements politiques de la dernière décennie ou des dernières 20 années en Amérique latine. On retrouve donc, mutatis mutandis, les caractéristiques ou prérogatives d'un état de classe au sens marxiste, mais corrigé de son aveuglement ou de son abstraction géographique. Bon, je crois que j'ai déjà atteint la limite. Alors, si tu me donnes-moi quelques minutes, mais pas plus. D'accord. Je suis très trop loin. Moi, j'ai écrit tout ça, ça sera compte rendu, pas juste un petit peu. Bon. Dites déjà. Alors, je me contente d'indiquer des têtes de chapitre. Bon. Alors, j'avais parlé de deux présupposés de ce présupposé. Bon. De la conception du communisme qui est la sienne, qui est aussi d'une certaine façon le cœur, bien sûr, de sa proposition analytique. D'une part, l'idée d'une histoire comme processus de mondialisation de l'État. Ça suppose qu'il y ait une origine, un développement et un terme. Ici, Jacques suit un schéma qui est dialectique ou quasi-dialectique. Et le point, évidemment, décisif pour comprendre ce qui se passe au terme, c'est-à-dire au moment où la forme État atteint ou tente d'atteindre la dimension planétaire, c'est le choix du point de départ. Bon. Le choix du point de départ, évidemment, c'est à mon avis la cheville ouvrière de tous les livres, c'est la réfutation de l'idée marxiste classique de la constitution de l'État-nation comme forme ou comme seule forme adéquate à l'émergence du mode de production capitaliste, conduit aussi à faire de l'État absolutiste la première et d'une certaine façon la forme déterminante de l'État moderne. À quoi Jacques oppose la description, très belle description, de la cité-État dans l'Église italienne du nord de l'Italie, et ceci a pour conséquence évidemment que l'émergence de l'État-nation, qui est essentiellement, évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus, liée aussi à l'importance croissante prise par la guerre dans le centre du système monde, ou la guerre inter-étatique, apparaît non pas comme un point de départ, mais comme un premier retournement. Bon. Deuxième présupposé, c'est, je passe très vite, c'est l'idée que tout ceci n'est pas simplement un développement historique, mais c'est aussi une dialectique conceptuelle des formes de la rationalité ou de la modernité. Et ici, évidemment, il faut articuler la concurrence externe, on vient d'en parler, la rationalité militaro-diplomatique, si vous voulez, avec une rationalité plus intrinsèquement sociopolitique. C'est la très belle analyse de la question des partis opérant un déplacement de fond post-gramscien, je dirais, de l'idée d'un conflit de classe et un conflit de domination et dont le cœur est la décision terminologique d'appeler classe fondamentale, une sorte de réunion de ce qui chez Hegel constituait d'un côté la classe substantielle et de l'autre la classe universelle, qui a pour effet de réunifier virtuellement au niveau des dominés ce qui est intrinsèquement divisé au niveau des dominants, puisque les dominants sont d'un côté des capitalistes, de l'autre des dirigeants, même si Jacques est conscient de la multiplicité ou de l'hétérogénéité interne de cette classe fondamentale, ouvrant aussi, c'est pas messianique, hein, c'est plutôt analytique que messianique, la possibilité d'analyser le jeu pervers des effets des alliances de classe, c'est un jeu triangulaire et non pas binaire, c'est le concept de l'alliance juste. Bon, alors, là, Jacques va hurler, évidemment, parce qu'il faudrait passer au présupposé de ces présupposés, qui est la distinction de la structure et de la métastructure, ou plutôt la théorie de leur articulation, laissant, et que je suis obligé de passer très vite, mais enfin, d'une certaine façon, chacun connaît. Disons simplement qu'ici, on voit la fécondité et l'utilité de ces travaux préparatoires. L'essentiel est dit dans le schéma de la page 55, que vous pouvez, où il dit rassembler dans le schéma de la page 55, vous pouvez regarder de moi ici, qui explicite le jeu de la bipolarité des rapports sociaux inter-individuels, ou des formes de l'inter-individualité, si vous voulez, d'un côté, donc ça peut être soit de l'ordre du marché de l'échange et de la concurrence, soit de l'ordre de l'organisation, que Jacques appelle encore l'entre-chacun d'un côté, l'entre-tous de l'autre, et d'autre part de la bifacialité des institutions, elles aussi sociales. Alors là encore, je pense qu'on est assez proche de cette transformation, une reprise transformation de l'idée hegelienne de l'esprit objectif, autant et plus peut-être que de la formation sociale marxienne. Donc la réunification des deux instances médiales ou médiatrices, comme Jacques le disait, qui figurait dans au milieu, en somme, dans la topique martienne, mais rapportée d'un côté l'une à l'infrastructure, les rapports de production, l'autre à la superstructure, ce qui introduisait tout de suite une disparité ontologique radicale dont Jacques ne veut plus. Il reste quand même une nuance, et d'un côté, il parle du rationnel, et de l'autre, du raisonnable. Bon, alors, j'aimerais bien qu'on discute un peu de ça. Et alors, évidemment, les deux problèmes qui subsistent, comme toujours, me semble-t-il, chez lui, c'est d'une part la question de savoir jusqu'à quel point nous sommes d'accord avec l'idée que le capitalisme, en tant que processus ou logique, non seulement d'exploitation, mais de surexploitation, est toujours pensable, même à l'extrême, comme un développement du marché à travers la transformation anthropologique de la force de travail en force de travail salarié. Et d'autre part, alors ça c'est la question que ce livre met évidemment, renouvelle et impose de prendre en compte, dans quelle mesure nous sommes d'accord avec l'idée que l'État, même post-national, l'étatique si vous préférez, est une modalité de l'organisation, ce qui veut dire que le pouvoir d'État, l'autorité, la souveraineté en particulier, en sont essentiellement des fonctions organisatrices. Et ici, je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a dans l'élaboration de Jacques une influence, un dialogue critique aussi influent, non seulement de la sociologie des organisations, mais de la thématique contemporaine de la gouvernance. La gouvernance est évidemment majeure, l'idée que l'État est une organisation dépend de l'idée que l'État est un pouvoir souverain. Bon, alors, il faut que je m'arrête parce que j'ai déjà abusé de mon temps de parole avant d'en être venu à ce que j'appelle les questions critiques. Là encore, encore plus télégraphiquement, je me contente de les mentionner et puis on va. Je vais laisser Jacques parler ensuite, je reviendrai. Bon. J'en ai quatre. La première question critique, qu'on me comprenne bien, une question critique, ça ne veut pas dire des accords radicaux, un rejet de qui est proposé ici. Ça veut dire tout ça que la question continue de se poser, qu'à certains égards, il faut, pour développer ce qui nous est offert, continuer de la discuter. Bon. Alors, il y a une question qui porte sur, ça ne vous surprendra pas, une première question porte sur le caractère eurocentrique ou non de la construction de Jacques. Et je crois que de ce point de vue, il y a une espèce d'ambiguïté du texte, enfin, à mes yeux, bon, qui provient du fait que l'eurocentrisme est disqualifié au niveau des proclamations de principes méthodologiques, mais est au fond non seulement pratiqué, mais d'une certaine façon radicalement justifié et revendiqué par le développement qui nous est offert, puisque l'histoire dont il s'agit ici est l'histoire de l'émergence du sociopolitique à l'échelle du monde à travers son aliénation étatique, dont le point de départ serait constitué par s'était constitué dans les cités-États italiennes. Bon. Deuxième objection qui prend la suite, deuxième question qui prend la suite de la précédente, c'est de savoir, c'est pas seulement l'eurocentrisme, c'est le caractère téléologique. Et par voie de conséquence, inévitablement, aussi peut-être, quand on commence à la question du communisme, eschatologique, même si j'ai bien pris soin de le préciser, et c'est parce que ça me paraît très important et très juste. Qui intéresse essentiellement Jacques, je fais un petit nuance tout de suite, dans sa façon de présenter le communisme comme l'alternative politique interne au fond, à l'émergence de la communauté politique planétaire, c'est la possibilité d'analyser des rapports de force ou des seuils dans la conjoncture et pas de prophétiser. Bon. Ceci étant dit, ce qui me semble ici faire problème, et la discussion avec Sassène est très intéressante de ce point de vue, c'est que Jacques a pris position enfin, dans une grande discussion à laquelle beaucoup d'entre nous ont participé, alors Stein a contribué bien sûr, sur la question de savoir si la forme politique spécifiquement bourgeoise est essentiellement une ou au contraire multiple. Alors, si on pense que cette forme est multiple, c'est-à-dire qu'au moment de la grande transition, il faut l'allonger, probablement, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, bon, ça fait beaucoup, bien sûr, pour une transition. Bon, il n'y a pas une forme politique unique qui se met en place. Il y a une sorte de concurrence permanente et de hiérarchisation entre plusieurs formes. Bon, tout le monde est à peu près d'accord sur les identités ou sur la typologie, c'est les empires, c'est les états-nations et c'est les réseaux de cités-états. Alors évidemment, Jacques a trouvé un moyen, à l'encontre d'un certain marxisme traditionnel, bon, d'expliquer que c'est pas l'état, enfin, non pas de dire que l'état-nation ne l'emporte pas sur les deux autres, mais d'expliquer que dans la façon dont l'État-nation l'emporte sur les deux autres, demeure, au fond, comme le refoulé ou comme l'autre de l'aliénation, la forme sociopolitique essentielle qui avait émergé avec la cité-État. Bon, alors, quand on passe au terme, c'est-à-dire où nous en sommes aujourd'hui, il se pose un problème du même genre. J'énoncerai pour ma part de la façon suivante, sommes-nous réellement en mesure d'identifier une tendance et une seule, hein, ne serait-ce que comme s'il s'agissait, ne serait-ce que comme une tendance, tendancielle, si je peux être aussi bêtement tautologique, qui l'emporterait sur les autres. Ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas admettre qu'il y a une sorte d'indétermination, que les débats sur la géopolitique actuelle, la question de savoir si on voit émerger quelque chose comme un néolibéralisme, bon, et a fortiori évidemment un néolibéralisme finant, enfin un triomphe du capital financier qui homogénéise d'une certaine façon la politique contemporaine, ou bien si au contraire nous sommes dans une phase non seulement d'incertitude mais d'indétermination. L'évolution dépendra de rapports de force entre le monde multipolaire où la souveraineté au sens quasi schmittien va se reconstituer dans un certain nombre de grands pôles étatiques et qui seront en même temps des centres d'accumulation, qui sont en même temps des centres d'accumulation capitaliste, se présenterait comme une alternative ouverte. Moi, je ne réponds pas à cette question. Je dis que si on choisit le premier terme, évidemment, on introduit quelque chose comme une téléologie. Bon. Troisième question possible, elle serait très longue, sur la matrice sociopolitique elle-même, dont j'ai suggéré de façon répétée qu'elle était toujours encore hegelienne, et peut-être, et ce n'est pas une infamie, à mes yeux, bien au contraire. Bon. Le coût de la rationalité et du rationnel et du raisonnable, hein, bon, et bien très profondément, de cette tradition dialectique que Jacques a corrigée en particulier en s'inspirant d'apports fondamentaux de Habermas. La question, c'est à mes yeux, de savoir si on n'aboutit pas inévitablement de ce point de vue à une sorte de réduction, au fond de rationalisation de la représentation de l'histoire. Et au fond, voilà, c'est ça. Est-ce que je suis d'accord? Je pense que Jacques pense profondément que l'histoire est rationnelle, même si elle est pleine d'aliénation. Elle est rationnelle à la fois au niveau des forces qu'il a meuvent et au niveau des effets de son développement. Et moi, j'ai les plus grands doutes sur cette question. Alors, évidemment, ça suppose une discussion serrée, qui ne doit pas être une discussion de marchand de tapis, sur la question de savoir ce qu'on fait de ce qui apparaît essentiellement comme des excès ou des éléments d'hétérogénéité, en presque dans le sens bataillien, par rapport à la rationalité. Bon. Et il y en a de tous les côtés, et Jacques ne l'ignore absolument pas, il y en a du côté de l'idéologie. Ben, bon. Alors c'est toute la question de il appelle la différence entre l'idéologie et la cryptologie. Bon, moi, j'ai évidemment tendance à penser que ce qu'il appelle la cryptologie à propos du racisme, c'est-à-dire le cryptage langagier de la volante, c'est ce qui révèle d'une certaine façon l'essence même du processus idéologique. Mais ici, il faut se servir non seulement de Freud, bien sûr, non seulement de Habermas et de Marx, mais aussi et surtout de Freud, c'est-à-dire réfléchir sur non seulement sur la communication, mais sur l'irrationalité de la constitution des groupes et des identités collectives. C'est la question de l'argent, hein, bon, donc la question de l'argent. D'ailleurs, qui redouble celle du capitalisme à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas seulement de savoir si on peut et si on doit considérer que le capitalisme est un développement du marché. Voilà, évidemment, toute l'école, toute la tendance. Il y a une référence, il y a toutes sortes de références magnifiques et très bien employées aux auteurs du passé dans le livre de Jacques. Il y en a une. Il me pardonne d'en faire une lecture symptomale, que j'espère ne pas m'être trompé, je suis reporté à l'index après pour vérifier qu'il n'y est pas, c'est Rosa Luxembourg. Bon. Et pourtant, il se sert de Harvey, qui est un post-luxembourgien. Bon, alors évidemment, l'importance de la référence à Rosa Luxembourg, c'est l'introduction de l'idée suivant laquelle l'accumulation primitive ne s'est jamais arrêtée. Et par conséquent, il y a dans l'exploitation capitaliste une dimension d'excès ou d'extrême violence. Et Jacques dit bien que le capitalisme est destructeur et pas seulement constructeur, mais qu'il est très difficile de penser il faut la penser au-delà même de l'échange inégal, il est très difficile de penser comme un développement du marché. Et aujourd'hui, il y a un autre problème qui est aussi, me semble-t-il, névralgique, qui est de savoir si la spéculation financière est pensée comme une modalité du marché. Bon, alors, ici aussi, Jacques fait allusion, bon, on ne peut pas ne pas le faire, évidemment, à la façon dont la spéculation financière, mais il fait allusion comme à une façon dont le marché contrôlerait les États. C'est ce que j'ai cru comprendre. Or, toute une partie des théoriciens qui nous entourent soulève un problème qu'on ne peut pas ignorer, c'est Lordon, c'est Aglietta, c'est d'autres, etc., qui est de savoir si la spéculation financière est une concurrence. Évidemment, leur réponse est non. Et enfin, il y a le problème de la souveraineté, c'est-à-dire la question de savoir en particulier comment on interprète le phénomène de l'émergence de la police mondiale et de la transformation de la guerre en police monde. Alors, évidemment, là aussi, c'est un point névralgique, et c'est aussi une question d'analyse de conjoncture. Jacques semble penser que l'intervention américaine en Irak, si je me trompe, il me le dira, bon, que l'intervention américaine en Irak constitue une des phases, au fond, du développement de cette police monde, dans laquelle on a vu l'hégémone, l'État le plus puissant, réclamer et obtenir la légitimation de la... de l'Organisation des Nations Unies, ce qui, en effet, je l'admets, est intervenu après coup. Mais à mes yeux, le phénomène le plus important, c'est ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la tentative de l'Empire américain de déstabiliser, de délégitimiser radicalement l'ordre juridique international et l'organisation internationale. Donc, dans la forme d'une prétention de souveraineté qui a lamentablement échoué, mais qui montre bien, à mes yeux, le fait que la question de la souveraineté n'est pas réglée. Bon, alors, pour finir, évidemment, la grande question, la quatrième question que je souhaiterais poser, c'est savoir si l'idée du communisme comme critique immanente, autocritique immanente de la société moderne, dont j'ai dit pourquoi je la trouvais extrêmement intéressante, ne comporte pas néanmoins elle aussi des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Il n'y a pas de soi de répondre. Et je pense que c'est la même question, celle de savoir si on peut considérer ce que Jacques appelle la classe fondamentale comme un sujet historique et politique et effectif, ou encore la question de savoir si on est d'accord avec la façon qu'il a, et que je répète, je trouve très, très, très remarquable, de refonder ou de reprendre à un autre niveau la grande antithèse fondatrice au fond de l'opposition entre la droite et la gauche, entre les politiques de l'ordre et les politiques du mouvement, ou les forces de l'ordre et les forces du mouvement. Bon. Alors ça, à mon avis, c'est une idée métapolitique, hein, pas seulement au sens de la métastructure, mais au sens usuel en philosophie, c'est-à-dire qu'on change de niveau. Et je pose la question de savoir s'il n'y a pas un cercle. Bon, ce n'est pas nécessairement un défaut, mais c'est un problème. Il n'y a pas un cercle. Parce qu'on croit toujours que la politique se définit fondamentalement comme l'opposition entre la conservation d'un ordre et le mouvement de transformation. On a besoin d'identifier un sujet, évidemment, de part et d'autre, un sujet pour la conservation de l'ordre et un sujet pour la réalisation du mouvement, auquel on donne le nom de classe fondamentale en postulant, au fond, que les convergences virtuelles sont à long terme, ou même sous nos yeux, plus décisives et plus déterminantes que les divergences. Ici, si on veut être concret, la question névralgique, c'est sûrement celle du nationalisme, une fois de plus, bon, évidemment, que quelqu'un comme Wallerstein considérait comme un mouvement antisystémique. Alors oui, mais c'est pareil, il y a deux types de mouvements antisystémiques, les classes, bon, il y en a d'autres, le socialisme à côté, le nationalisme, bon, pour des raisons que j'approuve, Jacques récuse l'idée du socialisme comme mouvement antisystémique parce qu'il n'est pas antistructurel, bon, et il me semble qu'il pense que l'émergence de l'État-monde, au fond, réduit l'ambivalence du nationalisme, bon, et tendanciellement le résorbe. En l'inscrivant, une fois pour toutes, du côté de la conservation. Bon. Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Pardonnez-moi de ce bavardage extrêmement long.
Je remercie Étienne beaucoup, qui a été un maître essentiel pour moi, quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement. À Marx, je m'y intéressais depuis longtemps, mais je n'y voyais qu'un humanisme parmi d'autres, et le choc fondamental était la lecture des textes de Thusser et de ceux qui l'entourent, et notamment les textes d'Étienne, notamment dans ce Lire le Capital, et ensuite dans les essais sur le matérialisme historique, qui entraient le plus activement dans la substance conceptuelle elle-même en tant que Marx propose une théorie de la société. Et donc, voilà, ça va vite. été actif dans ma première thèse, Lire le capital, donc je mobilise toujours un certain nombre de résultats. Pendant les années, ensuite, qui les années 80, j'ai un peu perdu la trace d'Étienne Balibar, je me suis intéressé à autre chose. Et au début des années 90, là, je me suis moi-même mis sur un autre chantier à travers l'étude de Rawls et je me suis rendu compte que Étienne était, à partir de ce moment-là, depuis un certain temps, sur des thèmes de théorie et de philosophie politique. Et donc, d'une certaine manière, les préoccupations se sont entrecroisées. Enfin. Et donc, j'ai continué sur la voie d'une hypothèse qui s'est cristallisée autour des années 95, par là 90, dans la théorie générale, certaines théories de la société moderne. Donc, et une refondation que j'ai poursuivie de livre en livre à travers une proposition de refondation du capital de Marx et à nouveau sur ce livre État monde dont on a discuté le chapitre 8 mais ce chapitre 8 évidemment il a donné le titre à l'ouvrage mais bon, pour moi les chapitres antérieurs qui sont les chapitres d'une part la fondation théorique, si on peut dire, ensuite d'application de cette théorie à l'analyse sociale des classes, des partis, etc., des rapports sexe, genre, race, et aussi au problème de l'idéologie, de la culture, etc., sont évidemment préparent les derniers, c'est-à-dire essaie de motiver l'idée, d'argumenter l'idée qu'il s'agit bien d'une théorie générale de la société moderne, et ce qui m'amène à prendre un risque double, si cette théorie est consistante et pertinente, elle doit nous dire la façon dont cela a commencé, c'est le chapitre sur la commune italienne, et sur un terme. Alors, bon, ça c'est le cadre. Donc, on a surtout, bon, il y avait tellement de concepts divers qui sont risqués, de thèses ahurissantes dans ce livre, on ne pouvait pas parler de tout, évidemment. Et comme Étienne l'a suggéré, évidemment, ça renvoie des problèmes généraux dont il a listé quelques-uns. Et alors, eurocentrisme, téléologie, ensuite sur la nature de la matrice que je propose en fait, et enfin sur la question du communisme. Bon, je vais peut-être commencer par la question téléologique parce que évidemment pour moi elle est essentielle dans la mesure où la critique que j'adresse à Marx est d'être une pensée de Marx, une pensée profondément téléologique. Et c'est ce qui m'amène à proposer une refondation de la théorie du capital, une reconstruction qui, à mon sens, n'a jamais été faite. Bien sûr, des corrections ont été proposées, mais recommencer à partir du commencement, je ne pense pas. Habermas a proposé une réélaboration du matérialisme historique, mais pas de la théorie de Marx. Donc, je considère que Marx, évidemment, est un économiste, mais l'économie ou la critique de l'économie qu'il propose, elle s'inscrit dans une théorie de la forme moderne de société. Disons. Et la manière dont il procède est pour moi très importante, parce que l'argument fondamental, notamment à toutes les lectures qui sont aujourd'hui données et qui fleurissent, etc., qui consiste à dire la vérité de Marx du Capital, elle est dans le Grundrisse. Je m'oppose à cette lecture parce qu'il y a, disons, de Grundrisse au Capital, quelque chose d'absolument essentiel, qui est la production d'une section 1, où il n'est pas encore question de Capital. Et cette section 1 a pour objet, non pas quelque chose qui serait la surface, la circulation, mais quelque chose qui est plus abstrait, en général, qui est une forme plus générale de la société moderne, qui est la logique de la production marchande, une économie de marché. Marx commence en quelque sorte. Ah, vous dites économie de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de marché dans laquelle on n'est pas encore question du capital? Évidemment, il n'est question que du capital. De toute façon, le marché, ça existe depuis très longtemps, depuis des millénaires, etc. Mais une société qui serait une économie de marché, qu'est-ce que c'est? Alors, il le définit, cette logique marchande. Et ensuite, il a montré, bien non, le capitalisme n'est pas une économie de marché. C'est une économie de marché dans laquelle une marchandise particulière, qui est la force de travail, etc. Et tout le problème est la question de la relation de l'une à l'autre. Et ce n'est pas simplement une relation dans un ordre exposé, c'est une relation de présupposé posé. C'est-à-dire que c'est bien le capitalisme qui produit, sans cesse, promeut des rapports marchands. Donc, d'où le... qui relance toujours cette... qui se fait marchandise de toute chose, en quelque sorte. Et, mais... voilà, donc je ne peux pas entrer dans cette question du présupposé. Ce serait une autre conférence, expliquer ce que c'est que le présupposé posé. Pour moi, c'est la question essentielle, disons, du débat autour du capital aujourd'hui. Et toutes ces soi-disant reprises dialectiques, etc. Alors, le reproche, je ne peux pas entrer dans... Bon, exposer ce que c'est que... Qu'est-ce qui est présupposé, qu'est-ce qui est posé, quelle est la relation entre les deux. Question très complexe, mais qui motive tout le reste, d'une certaine. Alors, que fait Marx? Marx dit a un exposé logique qui le conduit, d'une certaine manière, du marché au capital. De quelle façon il passe de la section 1 à la section 3, ce n'est pas le sujet. Mais ensuite, quand il arrive au capital, il a le noyau de la société. Il a cette forme avec, disons, les deux classes, la classe capitaliste et la classe des salariés. Bon, il développe, et voilà. Là, l'exposé logique est en quelque sorte terminé, sauf que à partir de là, il va montrer que cette structure a une tendance qui se déploie dans le temps. Et à cet égard, vont s'entremêler un développement d'analyse conceptuelle toujours lié à aussi une appréhension d'une réalité historique. Étienne avait du reste bien débrouillé cette articulation structure-tendance dans ses livres et les écrits de cette époque. Et à cet égard, ça m'a paru toujours très, très important. Alors, le problème chez Marx, c'est là où je réagis contre l'idée de téléologie, c'est que Marx commence par le marché et finit par l'organisation. Pourquoi? Enfin, je le répète tout au long de mon livre, c'est que dans l'analyse de Marx, le capitalisme tend, du fait de la concurrence entre capitalistes, à développer des entreprises toujours plus larges et toujours moins nombreuses, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, c'est dans le capital, qu'une entreprise par manche. Et à ce moment-là, bon, les conditions sont données pour une sorte de renversement, où ce n'est plus la logique de marché, logique de rééquilibrage a priori entre les propriétaires différents, mais une logique d'organisation, c'est-à-dire où c'est une seule volonté qui ensemble les fins et les moyens, comme dans une entreprise, c'est celle-là qui va pouvoir devenir prévalente, et en quelque sorte, c'est l'antichambre au socialisme, disons la masse des travailleurs nombreux, instruits par le procès de production, va pouvoir s'en emparer. Alors ça, c'est, disons que c'est d'une certaine manière, c'est la trame du grand mythe, du grand récit du XXe siècle. Alors, l'erreur, selon moi, c'est qu'on ne peut pas prendre du tout les choses ainsi, c'est que à partir de ce que j'appelle la forme moderne de société est caractérisée par le fait que le présupposé, ce n'est pas le marché, mais c'est tout à la fois le marché et l'organisation, et plus exactement la relation entre les deux termes, qui est une relation critique. Et donc, mon appréhension des choses... On va peut-être passer à l'eurocentrisme. C'est que à cette vision téléologique qui est donnée dans Marx, il faut... elle est fausse, tout simplement. Il y a une erreur chez Marx. Une erreur. Et donc, je ne suis pas un commentateur de Marx, je suis un disciple de Marx, quelqu'un qui vient après. Et je considère qu'il faut poser la théorie de Marx sur une base plus large, en considérant que bon, il y a bien un présupposé posé, c'est-à-dire il y a une forme dialectique de la modernité. Mais ce n'est pas une dialectique historique. Alors, sur la modernité, d'abord, qu'est-ce que c'est pour moi que la modernité? Ce n'est pas du tout une chose européenne. La modernité apparaît au moment où les deux grandes formes de coordination des choses sociales, que sont le marché et l'organisation, commencent à interférer comme un problème d'État, et même d'État-nation, immédiatement. Et ça, ça se produit en Chine, bien avant l'Europe, ça se produit aussi ailleurs, et pas seulement au Japon, dans toutes sortes de lieux, cette tendance, mais en Chine, c'est particulièrement clair. Pourquoi les Chinois parlent de l'époque moderne à partir de l'an 1000, il y a un État qui articule la logique marchande du monde marchand et des grands marchands chinois et celle de la bureaucratie intégrale, évidemment impériale. Et le problème de l'État, c'est l'articulation entre ces deux termes. Ça, c'est une... Bon, dans le monde islamique, des choses semblables se produisent aussi. Et dans cette petite périphérie d'Europe, il y a quelque chose qui émerge ainsi dans l'espace, dans les communes. Mais qui n'est pas jusqu'au bout que dans la commune italienne, autour de 1250, etc. Et dans cette commune italienne, eh bien, cette face-à-face entre le marché et l'organisation, parce que qu'est-ce qui se passe quand le marché et l'organisation se rencontrent? Ils se mettent à parler, ils se mettent à se battre. Qu'est-ce qu'on va laisser au marché? Qu'est-ce qu'on va donner à l'organisation? Et, disons, dans la... Bon, pas évoquer, mais il se passe quelque chose en Italie, dans ces communes italiennes, qui existe plus ou moins ailleurs, mais qui va jusqu'au bout, et qui tient au face-à-face de la cité dans laquelle ce peuple, qui est à la fois organisé dans la corporation, mais les corporations ont aussi des finalités marchandes, vont inventer quelque chose qui n'est pas du tout la modernité, qui n'a rien à voir avec l'esprit occidental, parce que ce que je ne cherche pas du tout des origines, ni un peu moins, je ne cherche pas l'origine du capitalisme, je cherche un commencement conjoncturel.
De la forme sociopolitique bourgeoise.
Pardon ?
Un commencement de la forme, c'est ce que tu appelles la forme sociopolitique bourgeoise.
Non, de la forme moderne de société.
Ah.
La forme moderne de société.
C'est différent ?
Marx emploie, oui, parce que...
Non, mais je te pose la question.
Oui, c'est différent. Quoique Marx emploie ces termes l'un pour l'autre, souvent, le mot moderne, il intervient trois fois dans l'introduction, je crois, au Capital. Mais, bon, il intervient significativement. Moderne, ça veut dire que c'est en relation avec cette théorie de la modernité, et cette théorie de la modernité se fonde sur l'idée que... Alors, ça a bien un rapport avec la raison, parce que le marché et l'organisation sont les deux formes rationnelles d'organisation à l'échelle sociale. C'est un point de vue des institutionnalistes.
Bien d'accord, c'est là que se loge ton présupposé, au sens philosophique,
rationaliste. Mais il est anti-rationaliste parce que, ce qui m'intéresse, c'est que le marché et l'organisation sont des facteurs de classe qui se combinent, qui s'articulent dans la forme capitaliste de société, proprement parler, et qui donne lieu à la production d'un rapport de classe qui n'est pas seulement bourgeois ni capitaliste, pourquoi je récuse complètement l'idée de société, ou alors la bourgeoisie, c'est autre chose. La bourgeoisie, ce serait le moment supposé, imaginé et réel de relation entre les deux pôles, entre la capacité et la propriété. Ce serait ça, la bourgeoisie. Ce serait ça. Si on entend bourgeois de cette façon, mais ce n'est pas... Je récuse totalement l'idée de que ces sociétés seraient définissables par l'idée qu'elles sont capitalistes.
Oui, j'ai bien compris.
Voilà, d'accord. Alors, pourquoi donc ce n'est pas téléologique? C'est parce que il y a bien quelque chose qui n'est... Qui va croître. Ah oui, ce qui commence dans la cité italienne, ce n'est pas du tout la modernité, mais c'est la modernité que j'appelle sociopolitique. C'est-à-dire que pour la première fois, disons, les agents que clivent en même temps le marché et l'organisation vont se trouver dans un face-à-face tel qu'ils vont... Voilà, c'est là, par hasard, que sont instituées, qu'apparaissent les institutions politiques républicaine moderne.
Mais d'accord, j'ai eu tort de parler de téléologie dans un sens un peu trop empirique, quoi. C'est peut-être, j'aurais dû dire, linéarité.
Une linéarité,
même si elle est seulement tendancielle.
Il y a une tendance, je vais y venir. Mais la tendance, c'est le contraire, ce n'est pas une tendance,
si tu veux, dans la discussion.
Il y a bien une tendance. On va voir quelle tendance. Ce qui se passe dans la communauté italienne s'invente l'idée d'une constitution produite par le peuple, l'idée aboutissant à des statuts qui sont des lois, un pouvoir législatif auquel la majorité de la population masculine, sous toutes sortes de réserves, a droit, d'un exécutif différent et d'un pouvoir judiciaire qui n'est plus qui est sous une emprise publique, etc. Bon, toutes sortes de choses, un urbanisme moderne.
On va se demander si ce n'est pas déjà romain. Mais moi, évidemment, les théoriciens des villes italiennes avaient conscience de s'inspirer d'un précédent.
Tout ça n'est pas romain. L'Empire romain est fondé sur une puissance qu'est la ville de Rome et une capacité, une organisation militaire, culturelle, etc., et qui est fondée sur un réseau de villes indépendantes. Et ces villes ne sont pas du tout... Non. Peu de choses à voir avec les villes italiennes, sauf que les villes italiennes en héritent. Ce sont les villes qui sont gérées par, disons, les propriétaires de l'environnement d'un certain territoire, qui ont à la fois une résidence à la campagne, une résidence en ville, et qui gèrent globalement. C'est la situation dans laquelle on se trouve au moment où va éclater la révolution moderne, d'une certaine manière, où, petit à petit, ce peuple des villes va enlever tout le privilège, pour un certain temps, du moins, à cette puissance de la propriété, et va ébaucher quelque chose qui va s'éteindre. Mais pour moi, c'est ma surprise qu'on ne qualifie pas cette émergence des cités italiennes comme une révolution. On avait pensé que c'était les premières révolutions bourgeoises, comme ce n'est pas le cas, que ce n'est pas non plus prolétarien, on n'arrive pas à comprendre en quoi c'est révolutionnaire, d'une certaine manière. Alors, ce qui commence, c'est seulement une modernité sociopolitique qui va s'éteindre, parce qu'elles sont battues, et ensuite, on va voir ces États-nations, l'Angleterre, la France, etc., sous une forme, disons, très peu démocratique, si on peut dire, et quelque chose va recommencer à partir du moment où, par exemple, dans l'espace de l'imprimerie, en France, en Angleterre, c'est différent. Il va y avoir une possibilité de connivence nationale et bon, quelque chose. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Mais, alors, téléologie. Alors, il n'y a pas, dans mon analyse conceptuelle, de tendance à quelque chose qui serait le socialisme, qui serait le communisme, etc. Il y a une tendance qui est territoriale. Et c'est l'une des thèses fondamentales. Elle est seulement territoriale, c'est-à-dire que par le développement des forces productives, comme on dit, ou des technologies, eh bien, ce qui s'est produit en Italie va dans l'espace de la cité, va se reproduire sur un espace plus large, notamment en France, en réalité très lié à l'industrie de l'imprimerie, qui est peut-être la première industrie au XVIe siècle, qui va rendre des possibilités de communication, d'ordonnance, de commandement, d'administration sur une échelle plus large, plus proportionnée à des réalités économiques nouvelles et qui va se développer. Et il arrive un moment, autour des années 1980, où le schéma des nations classiques craque d'une certaine manière. Mais c'est aussi, il y a toujours tendance et conjoncture. Il y a une conjoncture particulière où, autour des années 80, le développement brusque de l'informatique permet de développer des multinationales en mettant ici la production, là les centres de recherche, ailleurs. Et c'est en même temps une situation politique aussi où vient encore un tiers-monde qu'on peut faire travailler pratiquement pour rien, etc. Il y a le bas coût des transports, etc. Il y a toutes sortes de conjonctures qui font qu'une initiative politique est prise aussi par... le vieux rêve de Hayek et des autres arrive à majorité, on peut briser le carcan des États-nations et passer du libéralisme qui est toujours limité par l'autre pôle, parce que le fait qu'il y ait deux modes de coordination à l'échelle globale donne fait que la classe dominante est toujours bipolaire. Et cette bipolarité, disons, rationnelle, puisque tu as soulevé le terme de rationnel raisonnable, évidemment, ces termes viennent de la philosophie allemande, mais je plaiderais qu'ils ont un sens qui est définissable par l'usage que j'en donne. Disons que je ne vais pas me référer à... Je trouve du reste, par exemple, quand on s'intéresse à ce que fait Marx dans Capital. Bon, la grande idée des philosophes, c'est de chercher la vérité du Capital dans une philosophie antérieure, comme si on cherchait la vérité de Foucault dans Nietzsche, par exemple. Bon, je pense qu'il faut prendre Foucault pour ce qu'il produit, pour ce qu'il nous fait découvrir, et il faut prendre Marx aussi pour ce qu'il nous fait découvrir. Après, on va découvrir qu'il y a des impulsions philosophiques qui le poussent dans telle ou telle direction, qui sont créatrices. Je plaide pour l'idée que... Pardon ?
C'était pas une critique de ma part.
Oui, oui. Mais je plaide pour l'idée que pour ce que je mets en avant, c'est que c'est le mode de coordination rationnel à l'échelle sociale ne sont que, ont pour contrepartie la grande matrice de la philosophie politique qui est la contractualité de chacun avec chacun et le contrat social entre tous, la liberté des anciens, la liberté des modernes. Donc cette matrice qui a deux pôles, elle a aussi deux faces. Mais ce n'est que la matrice de l'État-nation. C'est-à-dire je ne fais pas une théorie de l'État, je fais une théorie de l'État-nation moderne. En argumentant aussi que c'est une nouveauté paranoïaque en un certain sens. Les citoyens de la cité italienne sont immédiatement des soldats. Mais ce ne sont pas les mêmes soldats que les soldats antiques, parce que la cité antique n'a pas de prérogative économique. Pratiquement pas. Tandis que ce dont s'empare...
C'est très, très, très intéressant, si tu me permets, de ponctuer pour qu'on ne croit pas qu'on est en désaccord, de ton analyse des villes italiennes. J'ai dit à l'instant, est-ce que ça ne vient pas de Rome? Mais là, sur ce point, tu marques une différence radicale qui est très intéressante, qui est les fonctions économiques marchandes, bon, mais économiques, de la cité-État.
Et organisationnelle. Parce qu'il s'empare.
Puisque c'est par définition une organisation. Mais il ne va pas de soi que cette organisation est une organisation des luttes internes, etc., ou une organisation dans laquelle se rencontrent se combattent des projets d'organisation antithétique. C'est peut-être justement ça qui disparaît ensuite quand, dans ce que les marxistes classiques, mais aussi les libéraux, décrivent comme le moment de la révolution bourgeoise, parce que là, m'a-t-il semblé, il m'a semblé que c'est ce que tu voulais dire, que la cité-État, même si tu es à un niveau beaucoup plus limité, disons, et antérieure à la révolution industrielle, a une compétence politique que les États-nations ultérieures n'auront plus. C'est pas ça que tu veux dire?
Oui.
Une compétence économique que les États-nations ultérieures n'auront plus.
N'auront plus qu'elles ont aujourd'hui.
Enfin, aujourd'hui, oui.
Enfin, qu'elles sont en train de perdre.
C'est pour ça qu'on revient au commencement, d'une certaine façon.
Voilà.
Mais à une autre échelle.
Voilà.
C'est ça qu'il appelle téléologie.
Voilà.
Le fait de revenir au commencement.
Ouais. Alors, la tendance, c'est une tendance à la croissance de cette unité qui est l'État-cité, jusqu'à l'État-monde. Mais c'est une tendance territoriale. Il arrive un moment où les questions qui se posaient à l'échelle de l'État, hein, que l'emprise, les ambitions, les enjeux et la lutte de classe, qui se passait dans les... Bon, se situe dans le cadre de l'État-nation. À un moment, cela casse, si on peut dire, autour des années 80. Mais ça ne veut pas dire que les rapports de classe sont disparus. Simplement, ce jeu de classe, il est à l'échelle du monde. Et c'est un jeu, en changeant d'échelle, il change aussi complètement de rapport de force. parce que, bon, après, il y a toute une théorie des alliances, des deux pôles. Pourquoi est-ce que j'appelle la classe d'en bas la classe fondamentale? Parce que je considère que les catégories de classe dominée, de classe subalterne, de working class, sont toutes des catégories absolument paternalistes qui sous-estiment le fait, enfin, ce que de la puissance... la puissance du peuple, enfin, c'est le côté multitude de la puissance qui vient, d'en bas, etc., qu'il faut
est-ce
toujours...
Est-ce qu'elle existe?
Oui, elle existe. Et
sous quelle forme?
Sous la forme
elle
que...
Elle est déterminée, je suis d'accord, que la multitude de l'Église. Vous avez en commun cette insistance sur l'aspect expansif qui vient aussi pour une part de Gramsci, je pense, quand même.
Bon,
enfin, en tout cas, ce n'est pas incompatible.
Oui.
Bon, j'apprécie beaucoup ça, l'idée qu'il ne faut pas raisonner uniquement dans ce qu'on appelle les termes paternalistes, c'est-à-dire en termes de négation, mais aussi en termes d'affirmation.
Oui.
Bon, mais ensuite, bon, alors évidemment, tu vas me dire, je prends toutes les précautions nécessaires, je décris ça comme une virtualité, comme une tendance immanente qui circule à l'intérieur de la dispersion des formes de résistance à la fois au système et à la structure. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans une sorte de cercle, je ne crois pas avoir le moyen de m'en échapper. C'est-à-dire que pour pouvoir penser cette résistance, même de façon virtuelle, comme une alternative effective, il faut postuler la convergence.
Alors, en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est qu'il n'y a pas de dialectique de l'histoire. Je récuse complètement cette idée. Bon, je pense qu'on est... Donc, en ce sens, il n'y a pas de rationalité, d'autant que... Bon, ce que j'ai dit de la structure, ce qui naît en Italie, ce n'est pas simplement, disons, cette forme moderne de société, cette forme de moderne de société a immédiatement deux dimensions, elle a celle de la structure de classe dans l'État-nation et celle du système du monde. Immédiatement, ces cités sont en guerre les unes par rapport aux autres pour la détermination des territoires, l'emprise des unes sur les autres. Certaines sont des petits centres et d'autres des périphéries. Enfin, l'histoire globale rend tout cela plus possible. Et immédiatement se développent des comptoirs, etc. Bon, les situations coloniales, phagocyte la Sicile, etc., qui était une société agricole technique où on produisait toutes sortes de choses différentes, tout d'un coup qui devient un grenier à blé, enfin toutes sortes de choses bon, très caractéristiques, et petit à petit, bon, la chrétienté est censément le centre d'un nouveau système monde. Bon, il y a à la fois la modernité structure et système, donc elle a la civilité de la structure, si l'on peut dire, où la violence est contenue dans le présupposé qui est toujours posé, qui n'est pas simplement un présupposé marchand, qui est un présupposé citoyen. Bon, le texte le plus beau, c'est quand même celui de la déclaration des dirigeants de la ville de Bologne en 1250, qui est tout de même, on a du Rousseau à l'état pur, qui dit, voilà, Dieu avait créé l'homme, en langage de la théologie, dans un jardin merveilleux, mais l'homme n'a pas voulu suivre les lois de Dieu, il l'a jeté dans la servitude, mais Jésus est venu pour le sauver, et il a déclaré que les hommes étaient libres, et effectivement, continue les notaires, l'homme naît libre, l'homme que Dieu a fait libre, l'homme que la nature a fait libre, tous ces termes, et se trouve dans les fers, et ces fers, ce sont ceux de la servitude féodale. Et c'est une noble chose que la ville de Bologne, la noble cité de Bologne, libère tous les serfs, et leur donne la liberté qui est conforme à leur nature, et les achète, et les rend libres. Évidemment, la noble ville de Bologne, considérant le passé et l'avenir, presque, disons, les termes d'une philosophie de l'histoire qui est esquissée, et évidemment, elle les rend libres pour pouvoir les soumettre à son fisc, etc., pour entrer dans cette nouvelle société bourgeoise. Mais, alors après, il y a des discontinuités en histoire. Enfin, il y a des intertemps, comme dit Boucheron dans son livre. Il y a une intertemporalité. Tout ça est écrasé. Mais bon, il n'y a pas seulement une culture. Il y a une manière Il y a quelque chose qui tient au fait qu'à partir du moment où le marché et l'organisation se sont rencontrés comme ça, ça va se poursuivre, mais selon des alternances, parce que le fait de la bipolarité de la classe dominante est aussi essentiel pour comprendre des développements historiques, des alternances. Parce que ce qui va se développer dans les grands royaumes, notamment de France, d'Espagne, et surtout en France, c'est une prévalence, disons, de l'organisation administrative, judiciaire, etc., militaire, fiscale de la société. Et c'est contre ça que, disons, au XVIIIe siècle, la bourgeoisie va Mais la bourgeoisie va dire, voilà, nous sommes des libéraux contre l'État. Ils ne sont pas contre l'État, évidemment. Ils sont contre un État où domine l'autre pôle, le pôle de l'organisation. Alors, tu as soulevé le problème de l'organisation. Effectivement, bon, la grande difficulté que je rencontre, c'est de faire admettre l'organisation comme un concept qui est de la même nature que le concept de marché.
Non, ce n'est pas ça. À mes yeux, à moi.
Oui.
La difficulté à mes yeux, je l'ai dit, c'est de savoir si on peut considérer le capitalisme purement et simplement comme une réalisation concrète de la forme du marché, et deux, de savoir si l'État, donc qui décrit les fonctions, etc., est une organisation.
Voilà. Alors, bon, pour moi, la société moderne n'est pas une société capitaliste. C'est une société moderne dans laquelle il y a deux pôles, il y a les capitalistes, il y a les dirigeants incompétents. Ce sont aussi des... Disons, je sais bien que chacun des concepts que j'emploie...
Il a très bien fait de débusquer ici non seulement un aveuglement, mais de Marx, une complicité, disons, de Marx avec le socialisme, c'est-à-dire avec l'idée, en effet... que le remède aux catastrophes provoquées par le capitalisme et plus généralement par la concurrence marchande, etc., ça serait l'organisation. Parce que, en fait, l'organisation n'est pas. C'est l'autre, oui, tu as complètement raison, c'est l'autre pôle d'une antithèse qui est complètement intérieure à la modernité, on va dire, étudiée par moi. Donc, c'est pas un recours, puisque c'est une partie constituante. Et l'idée que la... c'est post-gramscien, si on veut, mais enfin, bon, c'est la l'exploitation et la direction, etc. L'idée que la classe dominante ne consiste pas en capitalistes au service desquels, de façon ensuite, comme ça, toujours un peu secondaire, viendraient se mettre des intellectuels, des managers, des organisateurs, mais consiste bel et bien... Sur ce point, c'est Guizot qui a raison et non pas Marx, dans une bipolarité, comme tu viens de dire, qui est aussi un double principe de domination. Je te l'accorde complètement.
Mais ça a deux contreparties. Il y a une contrepartie selon laquelle la classe...
Ça n'implique pas du marché, et ça n'implique pas que dans l'État, il n'y ait que de la direction compétente.
Voilà. Ah oui, alors ça, c'est... on peut commencer par là. Ou peut-être quand même donner encore une dernière précision. Bon, je me rends bien compte que chacun de mes concepts devrait être argumenté à l'infini, si je puis dire. Du reste, c'est pourquoi je continue. J'ai terminé ce livre depuis un an, j'en ai écrit un autre sur Marx et Foucault, pour les mettre dans la même théorie. Donc, comment on peut... La théorie métastructurelle...
Dire, j'ai des doutes, je ne dis pas qu'il y a tort, mais j'ai des doutes.
Oui, je sais bien, l'enjeu est très... Bon, dangereux, si je peux dire. Mais j'avance quand même. Enfin, bon, mon jugement sera décisif, évidemment. Si l'on met la classe dominante, je commence à l'appeler plutôt la classe privilégiée. Parce que qu'est-ce qu'elle domine? Domine-t-elle le cours de l'histoire? Bon, ça, c'est un peu autre chose. Il y a deux sortes de privilèges qui se reproduisent. Marx a bien montré comment les privilèges de la propriété se reproduisent. Bourdieu et d'autres, comment les privilèges de la compétence vont peut-être le montrer encore un peu mieux, parce que c'est dans le processus même d'organisation qu'il y a une relégation. Toujours et une concentration. Mais ceux d'en bas, évidemment, ils ne sont pas étrangers au marché et à l'organisation, qui sont des biens communs de l'humanité. Ils sont toujours pris. Et Alors, ce qui est très important aussi pour moi, c'est que le marché et l'organisation, suite à une idée qui vient de Habermas et de Parsons, mais qui vient fondamentalement de Marx, qui consiste à dire les médiations, eh bien, ce sont les relais du discours immédiat. Si le monde était un marché, un village ou une île, eh bien, on pourrait s'arranger de distribuer des choses. Mais comme le monde est complexe, il doit y avoir des médiations. Et c'est Marx qui Vermittlung muss stattfinden. Et ça, c'est très important. Il y a deux médiations possibles. Soit le marché, et on voit ce que ça donne le capitalisme, soit die Organisation, le mot se trouve aussi chez Marx à cet endroit, et c'est dans Grundrisse 1.27, c'est un texte pour moi qui est, dans mon esprit, c'est très fameux, quoique on lit ça, on dit voilà, die Organisation, où dans la fin est présupposée et on dispose des moyens. Et dans l'organisation, eh bien, évidemment, les choses deviennent transparentes, elles sont l'objet même de on va pouvoir parler entre nous. Mais ça n'est pas comme ça que ça se passe. Les sociétés, les économies qui disent des économies de marché, elles se disent démocratiques. Vous avez une économie de marché, donc on peut discuter de tout. Et l'organisation concertée, c'était l'autre pôle. Donc, alors pourquoi l'organisation? J'arrive à ta question. Donc, ceux d'en bas, ils sont toujours pris dans ces choses. Ils sont actifs dans des relations marchandes, actifs dans des relations d'organisation, et ils sont très actifs, inventifs, pas seulement réactifs. Ils inventent, qui a inventé la peinture moderne de pauvres artisans dans des ateliers, qui a inventé, qui fait aujourd'hui les inventions de la science, ce sont des gens très payés, très ordinairement dans des labos, etc. Bon, l'invention populaire, elle est de partout. Il y a quand même dans la tradition marxiste l'idée que la masse des paysans, c'est une bande de rustos. Enfin, j'ai lu récemment les arrêts du Parlement de Bretagne au XVIIIe siècle. Il y a eu toute une série d'édits de Bretagne contre le fait que les paysans partout dans la campagne font du théâtre. Ils font du théâtre en 1720, 1730, etc. Bon, c'est cette créativité tout de même qui existe.
Pourquoi la classe dominante est irrémédiablement divisée, ce qui renvoie naturellement à toute la construction théorique de la métastructure, et bon, c'est des justifications théoriques. Et pourquoi, au bout du compte, politiquement, tu crois pouvoir affirmer que la division de la classe dominante ou des classes dominantes entre les capitalistes d'un côté et les dirigeants étatiques.
C'est pas l'État, c'est pas le marché.
Non, des dirigeants d'organisation. Bon, les
dirigeants incompétents.
Bon, les dirigeants incompétents.
Parce que
cette distinction-là est au fond irréductible, hein, alors que du côté, je ne dis pas non, mais je demande pourquoi, alors que du côté de la... Parce que je ne veux pas te simplifier, quand tu discutes de la question des classes, races, etc., tu te livres à un travail extrêmement intéressant sur le rapport entre l'hétérogénéité et ce que tu appelles, la consubstantialité. Bon, donc tu poses bien la question, je ne te le conteste pas, tu poses bien la question de savoir, au fond, si nous avons ou non la possibilité d'employer ici un concept chapeau, un concept unificateur. Classe fondamentale, c'est quand même pas rien. Hein, bon. D'autant plus qu'à la fin, s'il n'y avait pas la classe fondamentale, le communisme ne serait qu'une idée au sens de Badiou. Bon, donc on serait mal parti, hein, bon, si j'ose dire. Bon, mais donc il faut pouvoir parler de classe fondamentale. Et pour ça, il faut pouvoir expliquer, au fond, que l'hétérogénéité, si profonde, si radicale soit-elle, et elle renvoie à tous les facteurs historiques que tu dis, fonctionne finalement au service ou dans le cadre d'une, j'ai employé le mot convergent, enfin, disons, d'une tendance à l'unification.
Non, mais
l'influence politique, laquelle n'existerait pas de la même façon de l'autre côté. Pourquoi d'un côté on a deux alors que de l'autre on a un
Voilà. C'est, bon, les classes ne se ressemblent pas. Voilà, les classes ne se ressemblent pas. D'abord, qu'est-ce que c'est que les classes? Les classes ne sont pas des groupes, pour moi, donc ce ne sont pas des sujets. Les classes sont des principes de clivage très profonds dans la société, et ces clivages donnent lieu à des groupes. Par exemple, la classe ouvrière était un groupe, qui avait la classe ouvrière industrielle, etc.
C'est pas la classe ouvrière.
Bon. Donc, les classes sont des principes de clivage auxquels il faut revenir. Et selon moi, les principes de clivage, il faut revenir, ce sont les potentialités qui s'attachent, à la propriété sur le marché et celles qui s'attachent à la compétence sur l'organisation. Compétence, c'est toujours une compétence conférée, etc. Bien sûr, reconnue. Alors, donc, ce sont des privilèges. Alors, ça ne veut pas dire, et il y a à la fois convergence, enfin, disons, convergence et antagonisme. Disons, le capitaliste doit bien nommer un manager, il peut changer de manager, mais il ne peut pas faire qu'il n'y ait pas un management et que le management, bon, ça ne se recrute pas sur la base de la propriété qu'il a, mais d'une compétence reconnue.
Et donc, ma pose, je ne t'interroge pas sur les privilégiés, je t'interroge sur les non-privilégiés. La classe fondamentale,
attends, il faut que je réponde aussi à une autre question. Pourquoi on appelle les... Enfin, disons, parlons de la classe fondamentale. Il y a des centaines de questions, en fait. Il y en a autant que de phrases, que de propositions, mais je me rends bien compte. Il y a autant de questions à poser, chacune de mes sentences.
Mais d'une certaine façon, croire à l'existence de la classe fondamentale, c'est ce qui fait que tous ici, probablement, à moins qu'il y ait quelques sarkozistes dans la salle, nous pensons, en effet, comme tu le penses et comme tu le dis très bien, être historiquement et politiquement, non pas du côté de l'ordre, mais du côté du mouvement. Hein, bon. Mais je suis pas un philosophe analytique, malheureusement, je n'ai pas cette compétence. Je m'interroge quand même sur la question de la consistance logique, si tu veux, du raisonnement d'ensemble, qui fait qu'il y a un parti du mouvement parce qu'il y a une classe fondamentale, et une classe fondamentale parce qu'il faut qu'il y ait un parti du mouvement.
C'est pas juste ce que j'explique dans mon chapitre, tu m'excuseras. J'appelle cette classe fondamentale contre contre l'idée qu'il y a des classes populaires, etc. Ça, c'est là ce qui nous différencie, entre autres, avec mon ami Gérard Duménil, puisqu'on a fait on a fait un livre en commun avec Gérard Duménil, on travaillait une année sur ces questions. Pour moi, il n'y a pas deux classes supérieures, il y en a une seule qui est divisée en deux pôles, qui a à la fois des raisons de s'unir et en même temps des possibilités d'opposition. Et en bas, eh bien, il y a un certain nombre de groupes, si l'on peut dire, de fractions, mais ces fractions ont en commun de participer à des processus de marché, des processus d'organisation, mais diversement. Ceux qui sont indépendants, comme les paysans, sont plutôt liés à la relation marchande. Les fonctionnaires sont plutôt liés à la relation organisationnelle. Bon, les salariés du privé sont entre les deux. Mais ils ont tous en commun d'être diversement impliqués dans des processus d'intelligence et d'affrontement marchand et organisationnel. C'est pourquoi il y a une unité et une division en fractions.
Oui, mais tu comprends bien qu'autour de nous, il y a plein de gens qui ont des propositions alternatives. Et ils ont peut-être tort. Oui. Mais il faut se demander pourquoi, sur quelle base. Bon, oui. Par exemple, beaucoup de nos amis, camarades, interlocuteurs, etc., italiens, français, raisonnent, pour les raisons qu'on sait, etc., en termes aussi de polarité. C'est ça qui, au fond, la question serait la suivante. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi une polarité du côté des dominés, des exploités, etc. Qu'on pourrait même peut-être éventuellement essayer de mettre en rapport, parce que ton schéma analytique a de très grandes vertus explicatives. Bon, il est idéal typique, tu le dis très bien toi-même, avec une relation justement qui ne serait pas du tout la même par rapport au marché et à l'organisation. Tu prends l'opposition des travailleurs nomades, précaires, à celle des sédentaires. Alors on est protégé, comme disent certains économistes, bon, c'est-à-dire ceux au fond qui ont été intégrés
à l'institution de la citoyenneté sociale et de l'État social, dont on a peut-être un peu trop tendance, qui évidemment en prennent plein la gueule en ce moment, mais dont on a peut-être un peu trop tendance à penser qu'ils vont disparaître irréductiblement, ça c'est le mythe du néolibéralisme, et puis ils disparaissent ici, mais ils vont se reconstituer ailleurs. On a peut-être là, d'une certaine façon, si vous voulez, le travailleur au sens de la propriété sociale, comme dirait Robert Castel, bon, paradoxalement, bien qu'il parle de propriété, c'est ce à quoi il est intégré, d'une certaine façon, y compris sous la forme de lutte, etc., c'est plutôt un phénomène d'organisation, qui d'ailleurs est très étroitement lié à l'État, puisqu'il s'agit de l'État social, des droits sociaux, etc. etc. Ouais. Bon, alors que de l'autre côté, le migrant ou le précaire, alors ça évidemment l'émergence de la catégorie du précariat dans la discussion sociopolitique contemporaine est quand même très 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 intéressante. On se trouve, lui, disons, alors ce qui est important, c'est que ça s'accompagne d'une violence extrême qui en fait que tu ne peux pas sortir les gens de l'organisation sans les matraquer. Mais si on vous. Enfin, je fais cette petite proposition comme ça, dans le cours de la discussion. Mais on pourrait tenter de dire, au fond, eux, ils sont vraiment abandonnés au marché sous une forme qui est extrême. Donc, au fond, pourquoi ne pas dire qu'il y a une polarité et peut-être des conflits d'intérêts au sein des dominés ou des pauvres, ou qui sont au moins aussi fondamentaux pour l'analyse. J'ai peut-être eu tort d'en tirer des conclusions politiques trop vite. Bon,
et surtout, peut-être
au moins aussi important pour l'analyse que celle que tu repères à très juste titre de l'autre côté entre les capitalistes et les dirigeants compétents.
Peut-être je peux essayer sur ce point, parce que j'ai bien en vue ces analyses, par exemple cristallisées chez Rancière. Il a quand même, il nous invite à comprendre les choses à partir des 100 parts, etc. Alors, ce que je voudrais dire, il me semble que effectivement, il y a un statut de l'exclusion qui est propre à la société moderne, mais c'est parce que justement, le marché et l'organisation possèdent un extérieur.
Pas le marché.
Si on n'a rien à donner au. Si on n'a rien à donner au marché.
Le marché, tu es toujours dedans.
Non.
Oui,
mais tu es dedans comme. Enfin, c'est le problème.
Il faut toujours bouffer, mon vieux. Et pour bouffer, il faut payer.
Oui, mais peut-être tu ne bouffes plus. Alors à ce moment-là, tu es soutenu par quelque chose qui n'est pas le marché, mais qui procède de distribution organisationnelle.
C'est ça qui le rend effrayant, c'est qu'il a eu un extérieur à une époque où il y avait dans le monde, il y en a encore quelques-uns évidemment, des gens dont les moyens de subsistance étaient fournis par des modes de production traditionnels.
Alors dans mon analyse, il a bien un extérieur, mais c'est un extérieur qui justement n'a plus de moyens d'existence, qui n'est plus d'armée de réserve. Ça ne fait pas que le marché n'est pas d'extérieur. Celui qui n'a rien à donner au marché, bien, il est inclus dans le marché sous forme d'exclusion. De même que celui qui est déclaré non compétent dans l'organisation, qui n'a plus rien, aucune compétence censément à offrir, aucune compétence. Alors évidemment, ce qu'on a à donner, et la compétence reconnue, est en fonction d'une logique de la plus-value, etc.
J'entends ce que tu dis.
Donc, mais il y a un. C'est pourquoi, selon moi, on ne peut pas, au plan analytique, on ne peut pas procéder, analyser la société à partir du précariat. Ou à partir des 100 parts. On pourra dire que, du point de vue.
J'ai dit qu'il fallait qu'il leur donnait une place dans l'analyse.
Oui, bien sûr. Alors, moi, je leur donne une place dans l'analyse, qui est celle-ci, qui tient à ce que, effectivement. Il y a quelque chose qui manque dans. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans la théorisation marxiste, notamment la catégorie de facteurs de classe. Ça, c'est, la catégorie de facteurs de classe amène à comprendre que le rapport de classe est la combinaison de ces deux facteurs de classe, le marché et l'organisation, qui n'ont pas non plus le même statut. Parce que qu'est-ce que l'État. Évidemment, c'est un peu compliqué parce que pour parler de l'État, pour moi, je ne peux pas en parler en dehors de la représentation métastructure, structure pratique. Il y a bien pour moi. Donc, je ne peux pas parler comme ça platement de l'État parce que j'essaie de penser en termes de dialectique, c'est-à-dire de processus. Peut-être qu'il faut apprendre les Chinois.
Le résultat de tout ça, c'est que quand on te pose, chaque fois qu'on te pose la question de savoir si on peut effectivement, ce qui ne revient pas, annuler ton entreprise, ouais. Mais si on peut effectivement analyser à partir de tes concepts, notamment la métastructure, les phénomènes politiques ou historiques qui nous préoccupent aujourd'hui, ta réponse consiste à dire qu'il faut les analyser à partir de ce cadre conceptuel. Excuse-moi, ça ne peut convaincre que quelqu'un qui est entré dans le système.
Non, je pense que, au contraire, si l'on prend ma grammaire, on clarifie des choses, on peut même les comprendre.
Non seulement je te l'accorde, mais j'essaie de le dire à ma façon.
Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il faut sortir de la grammaire de Marx, pour laquelle il y a une classe dominante qui serait les capitalistes et une classe dominée qui serait les salariés, et donc on aurait une droite qui rassemblerait les capitalistes et une gauche potentiellement les salariés. Je crois qu'il y a bien une droite et une gauche, mais à droite, ce sont les possédants, enfin, c'est la logique du marché qui prévaut, et à gauche, c'est la logique des dirigeants incompétents. Et aussi, en bas, et pourquoi la classe fondamentale doit quand même faire alliance avec les dirigeants et compétents, parce que l'organisation, ce n'est pas la même chose que le marché. Le marché est un mécanisme muet, en un certain sens, alors que l'organisation doit s'expliquer d'une certaine manière. Et donc, c'est un pouvoir qui se communique, c'est un pouvoir qui produit, etc. Donc, il y a une relation, et donc, ceux d'en bas ne peuvent pas avoir d'autre but que de s'emparer discursivement, dans la mesure où ils n'ont pas les moyens, les privilèges de compétences reconnues, etc., les pouvoirs qui s'y attachent, donc par un travail de révolution démocratique, si on veut dire, de l'organisation pour contrôler le marché. Disons que le marché et l'organisation ne sont pas des choses qu'on peut liquider, ce sont des biens communs de l'humanité, mais la problématique d'en bas ne peut être que de contrôler le marché par l'organisation et l'organisation par le discours. Enfin, bon, ça c'est un axiome très général. Et alors, quand même, pourquoi le marché, tu m'as posé plusieurs fois, pourquoi je dis que l'État est une organisation? Pour moi, ça se réfère à quelque chose dont je pense que c'est Kant qui l'a. Tu trouveras certainement des énoncés antérieurs par ta prodigieuse connaissance de l'histoire de la philosophie politique. Mais pour moi, c'est clair dans la thèse kantienne du communisme primitif, selon laquelle, dans un monde matériel où nous ne sommes pas des anges, où agir, c'est toujours agir avec quelqu'un au sujet du monde, personne ne peut dire « ceci est à moi » avant qu'on ait convenu ensemble des règles selon lesquelles des choses pourraient être à toi et à moi, etc. Et pour Kant, ça se résout assez rapidement parce que ça va être un contrat social autour de la répartition marchande, etc. Bon, et quand même, le libéralisme radical se nourrit de cela jusqu'à Rawls, on arrive à renverser les choses. Effectivement, le monde n'est ça, le terme de rationalité est important. Il ne s'agit pas simplement d'être libre égaux, mais d'être rationnel, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit productif de notre vie. Et selon Kant, évidemment, déjà chez Locke, qui avait donné le signal, on ne produit que si on a que la terre n'est productive, si elle est séparée en lot ou en action, on ne sait pas. On arrive à John Rawls, finalement, qui est dans cette même perspective. Alors, donc, il y a bien un moment, c'est ce que j'appelle l'asymétrie métastructurelle. C'est-à-dire, il y a bien la forme de l'entre-chacun, mais la forme de l'entre-chacun ne peut pas ne pas se référer d'abord à l'entre-tous. Et disons, le fait que le marché, l'État se donne métastructurellement comme une organisation, il se donne comme une pure organisation de la parole. Comme une pure organisation de la parole, comme une pure organisation, il n'y a pas de négociation, de marchandage dans l'État. Spinoza dit quelque chose de ce genre, celui qui dans l'assemblée publique dirait « voilà, mais mon avantage est... » On ne peut parler que de l'avantage de tous, sinon on passe pour un sot. Et cet avantage de tous, comment se le figurer? Alors bon, ça, développer.
C'est un état utopique.
Ce n'est pas un état utopique, c'est un état prétendu.
Tu me donnes une furieuse. Oui, ben c'est pareil.
Non,
tu
ce n'est pas furieuse. Du tout la même chose. Parce que l'ordre de la prétention.
Tu me donnes une furieuse envie de redevenir schmittien, léniniste,
weberien,
etc.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire de voir dans le monopole de la violence, et pas seulement de la force organisée, quelque chose qui est essentiel à la forme de l'État, que tu retrouves toi-même dans ce que tu appelles les tendances contemporaines à la constitution d'un État-monde.
Non, pas du tout, justement. Pas du tout.
Bon, alors là, c'est un optimisme encore plus délirant que ce que je croyais. Alors,
non. Il n'y a aucune...
Et qui ne se réduira jamais à une logique contractualiste. Là, on retombe sur ton rationalisme de base.
Mais c'est très difficile de... c'est très difficile d'avancer des idées différentes, je vois, parce qu'on me ramène toujours à...
Il faut voir les conséquences et pas seulement les principes d'explication. Il faut voir si on peut tenir les conséquences. Voilà.
Oui.
Il faut voir si dans une conjoncture historique déterminée, tu peux soutenir les conséquences de tes propres principes.
Ah oui, il faut d'abord bien comprendre mes principes.
Oui, bien sûr.
Non, mais ce n'est pas si facile, apparemment. Apparemment, ce n'est pas si facile, parce que pour moi, je ne suis pas dans l'espace public de Habermas, qui est un espace public de discussion et d'argumentation. Je suis dans un espace public de prétention, c'est-à-dire, et de prétention contraire. La métastructure n'est jamais donnée qu'elle est déjà toujours déjà structurée. Elle n'est posée que dans la structure. Et dans la structure... nous sommes tous libres et égaux, comme l'a déjà très bien remarqué Bentham. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est établi, comme on le dit d'en haut, ou est-ce que ça doit être établi, comme on le dit en bas? C'est-à-dire que ça n'est pas donné comme une utopie, ça n'est donné comme un espace de prétention et de menace. Et voilà, c'est cet espace qui est...
La menace se concrétise, si tu veux.
Pardon?
Ce qui m'intéresse, c'est quand la menace se concrétise.
Eh bien, elle se concrétise justement parce que le cercle dont je parle, c'est un cercle métastructure, structure pratique. Parce que ce ne sont pas les structures, ce n'est pas le capital qui pose le marché. Du reste, il ne pose pas simplement le marché, parce qu'il produirait des marchandises, comme on le dit très trivialement dans le discours qui se développe aujourd'hui sur le capital. Il pose pas simplement la production marchande, mais aussi le principe critique de l'organisation, mais cela n'est jamais posé que dans les pratiques. Les structures ne posent rien, elles sont le cadre dans lequel s'affrontent des agents, parce que n'importe quoi n'est pas possible dans le monde moderne. Les structures, à chaque instant, ouvrent un champ de possibilités pour des agents qui ne sont pas les classes, mais dans les classes définit le clivage dans lequel des groupes vont émerger de nature extrêmement diverse et qui vont poser des actions économique, politique, de genre, et les actions pratiques et les actions économiques elles-mêmes sont toujours des actes de parole. Elles retentissent sous la forme de revendications, etc. Bon, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'analyse de Marx en disant, voilà, le marché, bien sûr, ce sont des choses qui s'échangent, mais rien ne s'échange sans qu'en même temps, on dise do ou des. Faquillo ou Faquillas, c'est... Et là, bon, le dos d'est, c'est le marché, le Faquillo ou Faquillas, c'est l'organisation, finalement. Parce que, bon, je vois qu'il y a des gens très savants. Peut-être on arrive au terme de la... Ah oui, je vais terminer là-dessus. Bon, le marché et l'organisation ne sont jamais que le développement de deux possibilités fondamentales de la coopération humaine, ou bien on échange, ou bien on coopère en quelque sorte. Et en cherchant bien, je suis sûr qu'on trouvera qu'il y a la moitié du cerveau qui est sur l'échange, l'autre moitié qui est pour l'organisation, qui est pour la coopération. Il y a deux possibilités. Et le don, l'essai sur le don, c'est un effort pour sortir de cette emprise, parce que apparemment l'échange, ça ne vous donne pas la possibilité de dominer l'autre comme on le fait dans l'organisation. Donc, je m'orienterai à des prémices anthropologiques de ce genre. Donc, ce sont des possibilités fondamentales qui se sont développées parallèlement jusqu'au moment où l'émergence de la modernité, c'est l'émergence de la relation entre les deux termes, et cette émergence, elle est critique. Parce que justement, le marché va se donner comme développement de la parole, l'organisation, comme des espaces de parole, ce qu'ils ne sont pas. Ils entrent en discours. Donc, le marché, l'État, donc, mais pour moi, il faut toujours penser dans la relation métastructure-structure pratique. Évidemment, l'État, il y a un État métastructurel. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Marx. Il y a, bizarrement, on n'a pas vu que dans la section 1, quand Marx a démontré qu'il n'y a pas de marchandise sans monnaie, et qu'il n'y a pas de monnaie sans État, alors il se pose la question de l'État, bien avant d'arriver aux classes sociales. Donc il y a un présupposé logique de l'État métastructurel. Alors cet État métastructurel, il veille à la monnaie, à son cours, à en avoir assez, il thésaurise, etc. Il veille aux frontières, il bat monnaie, etc. N'en dit pas davantage, mais si on a une conception sur une base plus large de la métastructure, qui n'est pas seulement le marché, mais qui est aussi l'organisation, on comprend qu'il y a un État présupposé, toujours revendiqué. Et dans cet État revendiqué, eh bien, l'organisation est une organisation de la parole, une voix égale une voix, et tous les développements de la théorie constitutionnaliste sont toujours des raffinements jusqu'à la démocratie participative. Il faut qu'une voix égale une voix, etc. Et c'est au terme de cela qu'on pourra dire qu'il y a une violence légitime entre les mains Et alors, la société, c'est toujours le couple, la société civile, pour moi, ce sont des termes dont il faut complètement changer le sens, parce que la société civile au plan métastructurel, elle n'est pas simplement privée, elle est aussi bien publique, disons, on peut revendiquer l'hôpital public comme aussi civil que la clinique privée. Mais tout cela est porté à travers des pratiques. Mais, disons, cette métastructure, elle n'est jamais posée que dans une situation structurelle, c'est-à-dire dans la situation des rapports de classe, dans lesquels l'État, donc ce sont bien les mêmes institutions, mais en tant qu'elles sont des institutions de classe. Et la société civile, c'est bien la même chose, mais en tant qu'elle est rapport de classe, rapport d'affrontement de classe. Et cela n'existe que dans une lutte de classe permanente dont tu étais souvent l'un des chantres, si je puis dire, qui est que tout cela n'existe jamais que dans le perpétuel mouvement, qui n'est pas simplement de ceux d'en bas et de ceux d'en haut, mais qui est cette relation entre ces deux possibilités au sommet, qui alterne du reste, parce que la bourgeoisie au XIXe siècle a pris, enfin disons, les capitalistes ont pris le pouvoir suprême jusque dans les années 1930, mais à partir des années 30, il s'est passé quelque chose où, ce sont les dominants et compétents, avec une impulsion populaire extrêmement importante, qui n'est pas simplement un compromis social-démocrate, mais qui vient de la conjonction de grands mouvements de libération systémique et aussi de la classe ouvrière à ce moment-là, qui font que les dirigeants et compétents arrivent à un certain compromis qui va limiter pendant une trentaine d'années, 40 ans, la prérogative des capitalistes jusqu'au moment où se produit le nouveau renversement qui fait que, à l'échelle du monde, effectivement, c'est le capital qui l'emporte, ayant détruit, enfin, neutralisé le lieu qui est l'État-nation, où les dirigeants incompétents pouvaient avoir des projets et qui pouvaient aussi être ceux de la classe fondamentale. Voilà, bon, je crois qu'il faut...
Peut-être on a le temps quand même.
Le discours est infini.
Si nos deux intervenants sont d'accord, on a peut-être le temps pour une petite interaction avec la salle, si certaines et certains d'entre vous ont des questions à poser, des demandes de précision.
Excusez d'intervenir, je ne suis pas philosophe, pas très compétent, mais quand même en rôle, je vais discuter. Mais moi aussi, pareil, sur une pensée qui est celle du 19e, bien, puisque c'est plutôt Freud et Darwin, et on en parle aujourd'hui actuellement, donc il y a un peu d'actuel apparemment. Mais justement, me plaçant plus dans l'aspect psychologique en remettant, en te regardant du hauteur de cette ouvrage. Et dans cette discussion qu'on a entendue aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as refusé, que tu n'as pas voulu aller, c'est-à-dire de considérer que cette classe fondamentale, elle était hétérogène. Et je me demande pourquoi j'ai senti cette espèce de refus. Et je me suis demandé si finalement, à partir du moment où on la considérerait dans son hétérogénéité et dans ses contradictions, ça ne te permettait pas d'espérer. Mmh. Car au bout, finalement, ce qui n'est pas espéré, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas et qui termine là-dessus à l'instant, en disant on voit le capitalisme vainqueur, c'est-à-dire que ça ne termine pas l'émergence du communisme. Et que tu as besoin, pour le voir émerger, de cette phase fondamentale, et pour cela, tu as besoin de gommer son hétérogénéité parce que elle fait disparaître un peu l'histoire. Donc tu vois, je te mets à l'intérieur. Et toi, qu'est-ce que tu espères au-delà de ce que
Très brièvement, moi je n'ai pas de principe d'espérance, j'ai un principe peut-être de persévérance. J'ai même indiqué que ma devise était celle de Charles le Téméraire, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Et... Tu vas pas me convaincre que dans la vie, tu n'espères
pas. Ah oui. Mais, bon, bien sûr, tu as raison de souligner le fait que cette place fondamentale, elle est extrêmement éclatée. Et aussi pour rejoindre quelque chose que commençait Étienne tout à l'heure, à juste titre, qu'il y a des polarités, des blocs qui se forment à l'intérieur, qui ne sont pas justement en haut les deux forces dominantes et en bas. Et j'y consacre du reste un chapitre. Et sous le pôle de moment, des affinités électives. C'est-à-dire que, évidemment, on pourra dire qu'aujourd'hui, un garçon, une fille à l'âge de 25 ans peut se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Est-ce que je vais essayer d'être fonctionnaire territorial de l'État? Ou est-ce que je vais essayer d'être salarié du privé? Ou est-ce que je vais monter mon entreprise indépendante? Ou être un indépendant, entre guillemets, etc. On sait un peu ce que ça signifie. Donc, ça pourrait se poser un peu à tous, quoi, que, bon, inégalement.
Hollande crée 60 000 postes dans l'éducation nationale.
Voilà, c'est une image de l'unité, mais en fait, c'est pas comme ça. Mais à partir du moment, du reste, où on est engagé dans ces voies, on est pris dans des relations qui sont plus des relations de marché, et bon, au soir du vote, on est tout proche. On voit évidemment que la petite propriété, les artisans, ce monde ouvrier périphérique de la petite entreprise qui s'identifie dans des leaders qui vont peut-être devenir des petits patrons, etc., ou ceux pour qui la vie au jour le jour, c'est le salaire, c'est pas l'espoir d'une grande promotion et qui, pour la raison, les gens les plus raisonnables auxquels il a affaire, ce sont leurs patrons, etc., ces gens vont plutôt voter à droite, alors que les gens qui sont dans la fonction publique, dans cette sorte de culture, qui voient aussi leurs enfants, bon, sont plutôt dans la culture des dirigeants et compétents, etc., ils vont plutôt voter à gauche. Et chez les salariés du privé, en général, ce sont plutôt des gens qualifiés, etc., ou espoir de qualification pour leurs enfants qui vont voter à gauche. Donc il y a bien des... Et puis, il y a aussi la masse de ceux qui ne vont pas voter. Bon, il y a bien d'autres... C'est pourquoi, j'essaie d'articuler... Bon, parce que ce livre, comme celui qu'on a fait avec Gérard Duménil, etc., il essaie d'ouvrir à une perspective... Et cette perspective a donc une stratégie politique aussi. Et cette stratégie politique, ce n'est pas celle du socialisme. Bon, j'ai subverti les mots de la tribu, si je puis dire, en appelant le libéralisme, c'est l'idéologie logique de ceux qui possèdent, le socialisme, c'est l'idéologie de ceux qui sont dirigeants et compétents. Il reste un troisième terme, le communisme. Le communisme, c'est la perspective de la classe fondamentale qui est de faire son unité d'abord, à travers ses fractions et les autres découpages, notamment la masse des précaires. Bon, Je suis resté dans l'espace de la nation. Évidemment, la nation, elle est toujours prise dans le système du monde. Le système du monde est intérieur à la nation. C'est un problème qu'on n'a pas, évidemment. Il n'y a pas d'un côté la nation fermée, de l'autre côté qu'il soit partie d'un système. C'est pourquoi, disons, toutes les forces structurelles de pouvoir de classe sont perverties par les forces barbares de la domination, de toutes sortes de façons, comme on le sait. Mais, donc, la perspective stratégique est à la fois l'union de diverses factions et l'alliance nécessaire et si possible hégémonique avec les dirigeants les compétents. Je crois que, voilà. Bon, c'est un peu...
Étienne, tu peux répondre ? Oui, non, mais j'ai beaucoup abusé. Je crois que quelqu'un a posé une question. Je voulais citer un petit passage du livre de Jacques que je trouve à la fois très intéressant et temps très énigmatique du point de vue de ce qui vient d'être dit. Mais écoutons la question, je dirai après.
Gilles, oui.
J'en avais deux, parce qu'il y a une question qui est en dehors de ce qui a été discuté, mais qui est dans votre ouvrage, parce qu'il y a une question qui est dans la discussion. Qui est dans votre ouvrage, qui n'est pas discuté, c'est le schéma de la page 55 que vous avez cité, où vous déclinez l'entre-soi et l'entre-nous pour reprendre.
L'entre-tous, oui. L'entre-chacun et l'entre-tous, oui.
Et la question, ça a une valeur descriptive d'une nouvelle technique sociale, mais est-ce que ce sont des relations sociales, au sens de Weber, ou est-ce que ce sont les prémices de rapports sociaux? Parce que si c'était des rapports sociaux, pouvoir penser en même temps l'entre-soi, dans le rapport patron-ouvrier ou de la famille, et l'entre-tous, les rapports sociaux dans la globalisation, entre États ou entre citoyens différents, là on aurait, même d'après les marxistes, un redéploiement des rapports sociaux potentiels. D'autant plus que dans le schéma, vous mettez en jeu les rationalités et les différentes formes de contrat. Donc, c'est une question assez concrète, mais qui est potentiellement forte et qui a échappé à la discussion.
Peut-être, Jacques, si tu veux répondre.
Oui, alors, là, j'ai une difficulté à répondre à cette question, parce que les concepts que j'essaie de déployer, ce sont pas des concepts sociologiques, ce sont pas des concepts économiques, ce sont pas des concepts juridiques. J'essaie de suivre le chemin, disons, l'objectif de Marx, qui est des concepts qui aient toutes ces faces d'une certaine manière. En ce sens, disons, on peut appeler ça un travail d'ontologie, si l'ontologie serait le point où s'articule l'économique, le juridique, le social, l'idéologique. J'essaie de me situer à ce plan. Voilà. Donc, l'entre chacun et l'entre tous, ce sont ce ne sont pas seulement des potentialités, mais ce sont des contraintes extrêmes. L'entre-chacun ne peut pas se penser en dehors de l'entre-tous, et l'entre-tous ne peut pas se penser en dehors de l'entre-chacun. Ce sont les deux faces de la philosophie politique moderne. Et le fait que le marché et l'organisation, évidemment, le marché tout seul est d'une rationalité limitée, comme disent les critiques, et l'organisation aussi. Et ce qui est rationnel, c'est toujours une sorte de co-imbrication du marché et de l'organisation. Savoir laquelle, c'est une autre chose. Mais entre chacun et entre tous, ce n'est pas une co-imbrication, mais une co-implication. Et je crois, d'une certaine manière, Kant, le monde, on le sait, clairement, moins depuis Kant. Mais ce sont, disons, des catégories plus abstraites que celles auxquelles vous faites allusion. C'est peut-être... un peu décevant.
Comment ? Oui, tu voulais poser une deuxième question ?
Oui.
Rapide, oui.
Mais qui a le corollaire de ça ?
D'accord.
La discussion attendait sur le rapport marché-organisation, on dirait que le capitalisme, c'est plus de l'organisation sur le marché. Mais du point de vue de la commune italienne, dans la ville italienne, la Chiesa, il y a l'église, il y a le marché, des marchands et des artisans et des corporations, il y a le municipio. Le municipio contribue à l'organisation.
Oui.
Mais il y a des principes politiques et des enjeux politiques.
Oui.
Qui va être élu, sur quel type de cooptation, suffrage, patrimonial ou pas,
oui.
les règles internes qui vont tourner à l'organisation. Il y a des truistes qui sont limités, mais il y a la concurrence entre les villes qui échappe, qui est véritable de conflit, je pense à Florence, donc le municipio, qui moi j'appelle les prémices des politiques, dans laquelle il y a c'est plus que l'organisation au sens capitalistique. Et donc, où est le politique dans ce schéma-là, en cette antithèse des marchés et de l'organisation, qui font l'histoire du capitalisme dans ses différents plans, le politique, c'est plus que ça. Il y a un principe supra Le politique n'est pas que l'organisation. Il s'appuie sur l'organisation, il répond aux organisations, des marchés, des situations, des innovations. Mais il y a un principe au-delà, alors pour certains c'est l'utopie chez Madame. Le politique, explique dans l'organisation, oui. Chez les compétents.
Mais, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, je parle de l'analyse de Marx, ce qui est intéressant de son analyse de la marchandise, de la logique de la production marchande, ça c'est certainement Étienne est d'accord avec moi, je pense qu'il a insisté aussi beaucoup à partir des analyses de Pachoukanis aussi, c'est qu'il il analyse la relation marchande comme immédiatement économique, mais aussi sociopolitique. On se reconnaît comme libre, égal et rationnel. Donc c'est ce point d'interférence. À partir de là, le politique est omniprésent, et même l'État est omniprésent. Si l'on distingue, bon, ce qui peut être intéressant, on a certains, l'appareil d'État, si on entend par là, tout ce qui relève de la gouvernementalité qui est censément mis sous l'égide de la parole organisée entre tous, et si on prend l'État au sens structurel, au sens où l'État est un État de classe, et l'État de classe, enfin disons, la classe, elle n'est pas seulement, pas seulement un rapport entre deux groupes, elle pénètre aussi chacun des individus. Pourquoi c'est une, disons, un concept que je mets en avant aussi, c'est la relation de classe, qui n'est pas la position de classe. Les rapports de classe sont des rapports inter-individuels. Justement, on ne peut le comprendre que si l'on comprend l'enjeu de ce qu'il y a des facteurs de classe. Les rapports de classe s'exercent à travers des facteurs de classe qui sont le marché et l'organisation. Et dans le marché de l'organisation, vous n'avez que des individus qui sont, par exemple, en concurrence, ou dans des rapports hiérarchiques. Donc le rapport de classe, il touche l'individu, et dans la mesure où l'État est un État de classe, l'État est présent dans tous les individus, et même, bon, il disloque les personnalités individuelles, d'où le doute au moment du vote, etc. Bon, donc, le politique est partout, d'une certaine manière. C'est peut-être...
Oui, mais en même temps, il est comme fonction
autonome. Ah, alors, bon. Évidemment, il y a l'autonomie du politique. Ça, c'est là, il y a l'autonomie du politique, ça, c'est ce qui est intéressant. Et je trouve que bon, toutes ces recherches qui ont été faites, hein, cette réflexion sur l'autonomie du politique par rapport à l'idée que ce serait l'économique, le rapport de classe compris, bon, tout ça est évidemment très, très, très utile. Mais, bon, d'une certaine manière, on en a peut-être abusé dans la mesure où... ça peut être servi de... Enfin, non, c'est un excellent chantier, mais travailler sur ce chantier, ça peut être empêché de comprendre à quel point le politique est immanent au rapport de classe, qu'il est toujours donné dans des petites luttes immédiates, etc., dans des micro-affrontements, dans chaque bureau, dans chaque lieu, etc. Ce qui est un peu vague.
Tiens, tu voulais commander ? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Je trouvais très, très, très intrigant et très intéressant, en même temps, la dernière page, les toutes dernières lignes, non pas de ta conclusion, mais du chapitre qui la précède immédiatement, c'est-à-dire du chapitre sur le communisme, dans lequel tu écris « Une ultime contradiction, en effet, échappe à toute issue politique concevable. L'humanité, alors ça, c'est ouvre des perspectives vertigineuses, parce qu'on était dans une construction très savante et très utile, je ne conteste à aucun moment de la pratique politique à partir de ces déterminations structurelles et métastructurelles, l'humanité a commencé à comprendre qu'elle sapait les conditions matérielles de son existence comme espèce. Je ne sais pas si Michel a envie de réagir à ça, en même temps qu'elle en détruisait une multitude d'autres. Jusqu'alors, la société moderne était dominée par ce qu'il convient d'appeler sa contradiction cardinale, etc. etc. Bon. La lutte des classes au quotidien et dans le long terme porte précisément sur la teneur des biens à produire pour le grand nombre et sur l'émancipation versus pour le petit nombre et le maintien de ces dominations, sur les conditions de leur production et de leur répartition au nom de l'intérêt particulier et collectif, de l'injustice ressentie. Bon, ça c'est aussi partie de la question de la rationalité. Mais aucun intérêt particulier ou collectif ne se dégage devant la destruction écologique. Les opprimés peuvent se dresser pour défendre leurs droits, mais qui défendra la planète ? Les personnes concernées, concertées, les humains futurs, entre guillemets, ne sont pas là pour la lutte des classes à la hauteur qu'elle requiert aujourd'hui. De ce fait, quoique le combat écologique soit éminemment politique, les concepts de la politique se trouvent en ce point dépassés. Si le communisme peut être aussi utile à quelque chose, c'est parce qu'il est non seulement critique de l'État, mais aussi du politique. Alors ça, c'est vertigineux, parce que tout d'un coup, ça, pas seulement la question des la classe fondamentale d'un concept politique, mais là, tu nous dis, elle est hors circuit. Donc il faut passer au-delà du politique. Et donc, l'écologie n'est pas une politique. Alors l'écologie est une politique au sens où elle suppose un accord moral, peut-être kantien, de ceux que par ailleurs, de bout en bout, dans une perspective quand même assez fidèle à Marx et à d'autres, hein, bon, post-marxienne, tu as décrit comme ayant des intérêts inconciliables, même si il faut même s'il y a des alliances. Pardon. Donc ce que le lecteur croit comprendre, c'est que... ici, c'est ou la catastrophe, ou le surgissement de l'humanité comme sujet, mais au-delà du politique. Je trouve ça très, 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 très intéressant et en même temps, comme je disais, vertigineux.
Oui, c'est vertigineux. Au sens où je ne veux pas laisser penser que je croirais que l'on peut trouver un quelconque secret pour... régler théoriquement la question écologique par la machinerie conceptuelle que j'ai développée. C'est un, disons, mais évidemment, ça n'empêche pas de penser que la question écologique est éminemment politique et que Marx est l'inventeur.
Que le système
et que je fais beaucoup de reproches à Marx. En tout cas, il s'est trompé sur une question fondamentale, mais Marx est quand même l'inventeur de l'écologie politique, en ce sens où il a montré clairement que la logique du capitalisme, c'est de la recherche de la plus-value, quelles qu'en soient les conséquences, etc. Là où la limite de sa découverte, tout de même, c'est qu'il lui manque la notion de contradiction cardinale à laquelle je fais. Mais c'est un des multiples concepts qui manquent à sa théorie. Parce que la contradiction cardinale n'est pas la contradiction générale, c'est pas à supposer que ce soit une contradiction, peut-être plutôt un antagonisme entre, disons, le capital et le travail, etc. La contradiction cardinale, à mon sens, tient à ce que le capitalisme ne peut produire de la plus-value qu'en produisant des marchandises, c'est-à-dire des valeurs d'usage reconnaissable comme telle par une population, évidemment inégale. Ça peut être la population, ça peut être celle des marchands, des acheteurs de canons, etc. Mais la contradiction cardinale fait qu'on ne peut pas produire de la plus-value en produisant n'importe quoi. D'abord, il faut produire. Évidemment, les capitalistes essaient de se refiler ça les uns aux autres, mais en définitive, il faut bien produire des choses déterminées, de façon déterminée, et ça, c'est le pain quotidien de la lutte des classes. Bizarrement, ça manque un peu dans le capital, alors que c'est une considération centrale qui fait comprendre peut-être aussi une limite du discours de Marx. Parce qu'il y a quand même une chose étrange chez Marx, il y a plusieurs choses étranges. L'une, il y en a au moins deux. Pour ma part, je termine là-dessus. La première, c'est que dans le capital, où il développe les tendances du capitalisme, à aucun moment il ne vient à penser que... la masse de la population pourrait se donner, dans une nation particulière, comme objectif de maîtriser le capital par quelque organisation. La seule perspective qu'il donne, quand les prolétaires seront assez puissants, nombreux, instruits, et l'entreprise assez prédominante à l'échelle de la nation, à ce moment-là, on pourra basculer dans autre chose. C'est ce qu'ont fait les Soviets. Ça, c'est un tabou des philosophes qui vous expliquent le capital. Ils oublient ce détail, en général. Alors, l'autre question, c'est quand même l'idée que le schème du mode de production, ça a quand même un sérieux défaut, c'est que ça n'a pas de géographie. C'est territorial, ça se reproduit, et il y a une contradiction conceptuelle, à mon avis, dans le fait que Marx ne conçoit jamais une infrastructure de classe dans une superstructure de classe, c'est-à-dire sans des institutions étatiques qui vont promouvoir ces rapports de classe. Et on ne peut guère les envisager que sur un territoire sur lequel cette autorité se fait jour, alors que dans son concept et son étude du capitalisme, les nations n'interviennent pas. Bien sûr, Marx est le grand pionnier de l'analyse de la colonisation, etc., de l'alliance coloniale, etc., d'une appropriation primitive qui n'a jamais cessé. Là, je ne suis pas en désaccord avec Harvey, mais là où je trouve que Harvey est quand même un peu faible, c'est que son concept central de special fix, c'est-à-dire d'arrangement territorial, comme ça que je traduis pour ma part, il n'en vient jamais à considérer pour lui-même cet arrangement fondamental qu'est l'État-nation, qui est le premier arrangement. On s'arrange avec le territoire, on s'arrange avec la nature, de quelque sorte. Bon, et sur beaucoup de, et sur ma dernière phrase, du reste, je laisserai le relais aux études qui me sont très chères de Stéphane sur la naturalité de l'homme et le fait que pour penser l'écologie, peut-être, il faut franchir un pas de plus que celui que j'essaie d'accomplir moi-même. Toujours est-il que bon, cet agéographisme du mode de production capitaliste est ce qui donne, c'est ce qui le met, disons, en fragilité devant l'histoire globale aujourd'hui, où l'on comprend que, bien sûr, cette question géographique à travers les systèmes mondes, qui a aussi une certaine... Pourquoi mes tendances ne sont pas seulement structurelles, mais sont finalement structurelles et systémiques. Ce qui ne veut pas du tout dire que l'État monde va l'emporter sur les nations, etc. Simplement, le système monde a, pour l'instant et pour très longtemps, quelque chose, une nouveauté qui s'y attache, pas au sens où il deviendrait subalterne par rapport à l'État monde. Ce sont deux dimensions qui sont embrouillées l'un dans l'autre, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, puisque les puissances du système monde s'emparent de la légitimité supposée ou imposée de l'État monde, aussi bien sous forme d'intervention policière que sous forme de détermination juridique, pas simplement par des appareils internationaux d'État, mais par des appareils privés aussi, qui est la mainmise dans chaque branche de tous les capitalistes concernés pour dire le droit sera ceci, un droit qui s'applique à tous. Qui fait, comme je dis dans un petit article dans Libé, que pour s'emparer de 20 millions d'hectares en Afrique, plus besoin d'arriver avec une armée, il suffit d'appliquer la légalité, on achète, on vend. Donc il y a bien, pour moi, il y a une réalité de l'État-monde, mais qui n'éteint pas du tout la systémique, la logique des nations, et je crois au contraire que la nation en est un ferment fondamental, parce que le grand citoyen du monde en France, eh bien c'est Sarkozy, si je puis dire, qui impose à l'État français une constitutionnalité qui est celle du monde néolibéral, donc c'est un grand citoyen. Mais ceux qui luttent contre lui aussi sont des citoyens du monde. C'est pourquoi la citoyenneté mondiale n'est pas à chercher aller se déplacer en jet pour aller arriver à... Bon, c'est très important l'altermondialisme. De même que les nations qui s'insurgent, elles s'insurgent à la face du monde, si on peut dire. Elles interpellent le monde entier. Mais après, bon, il y a du repli. Pardon ?
Il y aurait une dialectique de la citoyenneté.
Oui, c'est ça, ouais, une dialectique. Des citoyens illégaux, selon ce que dit... bon, parce que depuis très longtemps, tout le discours d'Étienne sur la citoyenneté, les frontières, les nations, l'État aussi, tout ça, ça hante mon arrière-fond cérébral, si je puis dire. Mais je poursuis une idée, je poursuis une idée simple. Voilà.
Bon, très bien. Beaucoup de choses ont été dites, on va peut-être féliciter nos intervenants. Bravo, Jacques. Merci beaucoup.
Je remercie beaucoup Étienne d'avoir accepté de se pencher sur cette
question. Merci à vous deux, c'était super intéressant.